Stupeur et réplique. Tout semble s'effondrer sous nos yeux. Les murs, garnis des bibliothèques, dépositaires de l'humanisme, se fissurent pour laisser l'oblivion nous saisir à la gorge. Stupeur et réplique. Privés de voix, tétanisés, comment répliquer? Se replier dans l'antre du savoir et chercher la voix? Se recroqueviller sur ses lectures pour se réconforter? Stupeur, réplique. Quand la carte n'est plus conforme au territoire, le réflexe du portulant est naturel, évident même. Mais l'écriture et la lecture sont un itinéraire, elles portent au loin. Alors levons les plumes et dressons le plan des pages nouvelles où pourront s'épanouir l'espoir, la culture et la joie. Nous allons en avoir bien besoin.
Bienvenue dans Itinéraire d'un lecteur gâté, le podcast qui aime la lecture sous toutes ses formes. Le livre papier, l'e-pub, l'audiobook, le web, tout. Si vous avez écouté le premier épisode de cette saison, vous savez que nous sommes dorénavant deux à animer ce podcast. Mon compère, ce vénérable matelot du web, est un vrai lecteur gâté. Je dirais même pourri gâté. C'est un lecteur immodéré depuis longtemps, et ce sur de nombreux supports, même les plus exotiques. Ce matelot du web qui officie aujourd'hui chez Kudaidi, vous l'aurez reconnu. Vous venez de l'entendre dans sa chronique, son édito poético-politique, c'est Ghislain Dominé. Ghislain, comment ça va en ces jours de post-vérité, de post-élection, qui, même si américaines, vont changer sinon le territoire, du moins la carte.
Eh bien, bonjour Yann, je t'avoue que ça va mieux qu'en début de semaine. En début de semaine, j'étais plutôt en mode 20 milieux sous les mers. Aujourd'hui, les forces sont revenues et je suis tout à fait enchanté d'être à tes côtés pour ce deuxième épisode. Mais d'ailleurs, attends, deuxième épisode, mais en fait, on n'est pas deux là. Où se trouve le troisième larron?
Alors, le troisième larron, eh bien écoutez, on va le présenter puisque aujourd'hui, nous avons le plaisir, que dis-je, la joie, le bonheur immense de recevoir François Jourde. François, les hôtes que nous sommes auraient pu prendre le temps de brosser un tableau dithyrambique de ta personne comme il se doit. Cela aurait été un portrait riche, détaillé, émouvant. Mais voilà, comment dire, on n'a pas eu le temps. Et en plus, on préfère le soin à l'invité de se présenter. François, qui es-tu ? Spoiler alerte, comme tu es entre autres prof de philo, on sait que cette simple question peut nous amener très très loin et très très longtemps.
Eh bien d'abord, je suis un de vos amis, parce que nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Je suis très heureux de vous retrouver ici, vraiment très très heureux. Et donc moi voilà, je suis François Jourde, je suis un ancien enseignant de philosophie. Je dis ancien parce que ça fait 6 années maintenant que j'ai arrêté d'enseigner, après avoir enseigné 23 années passionnément la philosophie au secondaire, donc en France d'abord, et puis j'ai la chance de le faire ensuite à Bruxelles, où je suis basé depuis maintenant une vingtaine d'années. Où j'ai été conduit par l'appel de l'Europe et accompagnant ma femme qui travaille pour les institutions européennes. Et j'ai eu la chance de travailler d'ailleurs comme enseignant de philosophie dans une école dite école européenne. Depuis 6 ans, j'ai la chance de continuer ma carrière, alors non plus comme enseignant, mais comme, disons, responsable du développement de l'éducation numérique, mais pas que, développement curriculaire. Je m'occupe aussi beaucoup de questions de l'éducation au climat, de plus en plus, avec beaucoup d'intérêt pédagogique, pour le compte, à nouveau, toujours, des écoles européennes qui sont basées à Bruxelles, mais qui opèrent à travers toute l'Europe. Et donc, je suis français, bientôt belge, j'espère. Je dois demander la nationalité cette année. Et marié avec une épouse suédoise, ayant 2 enfants qui sont aussi très, très européens.
On fait un peu tous la même chose, en fait. Hein. On pourrait créer le cercle des amis de l'éducation numérique.
Voilà.
Pour un autre podcast.
Cercle des amis européens, soulignons-le.
Aussi.
Voilà. Et je voulais aussi ajouter que notre amitié remonte En fait, on doit beaucoup à Ghislain qui nous avait invités. Mais tu participais à ça, Yann, hein? Oui. Il y a bien des années. Les dates, je ne suis pas très bon avec
En
les dates, donc ça fait
2010, c'était en
en
2010 que
2010
François nous sommes
à
rencontrés.
Waterloo, c'est ça?
Exactement, tout à fait.
Dans ton lycée ou dans ton collège?
C'est ça, à l'occasion d'un
Et
barcamp.
voilà, un barcamp. Donc c'est vraiment voilà. Donc j'aime beaucoup ça parce que le mode barcamp a été un peu celui de nos carrières respectives, je trouve, dans le côté portulant, comme tu disais dans ton édito à l'instant. Lié au numérique et à la pédagogie, oui.
J'en profite quand même parce qu'on l'a fait la semaine dernière, ou plus exactement, Ghislain l'a fait la semaine dernière. Mais on a salué Mireille et je propose que dans ce deuxième épisode, on resalue Mireille sans qui
Oui.
cette rencontre n'aurait probablement pas été
Nous te
possible.
saluons, Mireille.
Et pour ceux qui
Exactement.
ne connaissent pas Mireille, parce que en fait, ça va faire deux fois qu'on parle de Mireille sans expliciter les choses. Donc Mireille Rabaté, donc directrice du lycée Winston Churchill à Wembley.
Voilà, qui est un petit peu à la croisée des chemins pour tous les trois.
Oui, exactement.
Eh bien, je vous propose de démarrer la livraison du repas. Alors, nous sommes les véritables Uber de la littérature, puisque nous avons sélectionné quelques plats, puisque nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous commençons par une petite entrée sucrée avec la Madeleine de Proust. Et puis ensuite, vu notre attachement, en tout cas pour François et moi, à la Belgique, puisque moi-même, mes origines sont wallonnes, eh bien, nous dégusterons notre première bière, ça sera l'apéritif. Et puis, nous passerons ensuite à ces petits délices de tout le repas, que nous viendrons ponctuer d'un délicieux café. La cerise sur le gâteau sera un dessert. Et enfin, nous ne pouvons pas nous quitter aujourd'hui sans un petit Armagnac qui viendra conclure ce deuxième épisode. Et donc, je dégaine ici mes petites viennoiseries, en l'occurrence nos madeleines, et je commencerai donc cette première section, la Madeleine de Proust. Première question, mon cher François, quand tu étais enfant, c'est-à-dire il y a une époque pas si lointaine, est-ce que tu étais déjà un grand lecteur?
Ça fait quand même une époque, ça fait quand même 54 ans. J'ai fêté 54 ans cette semaine. Et j'étais pas un très grand lecteur en vérité, et davantage un lecteur de bande dessinée, beaucoup beaucoup de bande dessinée, plus que de romans, beaucoup plus que de romans. Mais je dois souligner que disons côté habitus et côté formation personnelle, sociale, familiale, je viens d'une famille qui comme beaucoup d'autres, hein, a beaucoup valorise beaucoup la culture littéraire, vraiment. C'est-à-dire valorise beaucoup la lecture, beaucoup de bibliothèques dans la maison, dans les maisons, beaucoup d'écriture aussi, l'encouragement à l'écriture quand nous étions enfants, des membres de la famille qui étaient eux-mêmes écrivains ou écrivants. Et puis la présence vraiment de beaucoup de genres littéraires dans les maisons et dans la famille, beaucoup de littérature, beaucoup de livres d'histoire, beaucoup d'essais, beaucoup de presse, beaucoup de magazines, des membres de la famille journalistes. Là, il y a vraiment eu une formation culturelle à la lecture. Ce qui fait que même si je ne suis pas moi-même un très grand lecteur, en tout cas en ce qui concerne la littérature, j'ai une familiarité très grande avec cet univers-là, évidemment. Et je dois dire aussi que je connais beaucoup, sans doute beaucoup plus de livres que j'en ai lus, beaucoup plus de livres que je n'en ai lus, notamment via les. Je suis un grand consommateur de. Alors pas tellement d'émissions littéraires à une époque. Enfin, ma grand-mère me faisait regarder apostrophe longtemps, mais
Quelle
j'ai
torture.
beaucoup. Oui, non, pas du tout. Non, au contraire, quel plaisir.
Ça
Mais
dépend
j'ai.
quand il y avait. Pardon, excuse-moi, mais je
Oui,
ne peux
vas-y.
pas ne pas évoquer cet épisode d'apostrophe avec, je crois que c'était Charles Bukowski et
Ah
Jeanne
oui.
Gourin, je crois.
Oui.
Et de bouteilles de Chablis, oui.
La bouteille qui
Oui.
va avec,
Mais
évidemment.
ça, tu vois,
C'était
c'était
des
bien
grands
parce que
moments.
ça montrait, mais ça désacralise, ou
L'auteur,
ça
tu veux
rend
dire?
l'auteur, de façon, ça donne une personnalité. L'auteur un peu grande gueule, hein, ici, oui. En tout cas, ça montre le spectre, le spectre, l'amplitude des personnalités des écrivains. Oui. Donc, mais en tant que. J'ai beaucoup, beaucoup lu, surtout en tant qu'étudiant, des critiques littéraires, le supplément littéraire du Monde, beaucoup écouté des émissions littéraires à France Culture, etc. Et ça m'a beaucoup décontracté d'écouter Ghislain, lors de votre dernier épisode, rappeler cette belle phrase de Umberto Eco sur l'importance d'être entouré de livres qu'on pourrait peut-être lire un jour.
Justement, tu n'as certainement pas attaqué dès ton plus jeune âge tes ouvrages qu'on va estimer de haute valeur intellectuelle. Par quoi tu as commencé?
Oui, alors j'ai pas une très bonne mémoire, mais ça me revient un peu par bribes, donc j'ai fait l'exercice en préparation. Là, je me suis de me souvenir, donc sans doute dans quelques jours, je me souviendrai évidemment des choses, des références que j'aurais dû dire, mais dont je me souviens plus aujourd'hui. Mais je me souviens notamment d'avoir une immense fascination pour les albums de Barbapapa. Et la fascination de Barbapapa, c'était lié enfin, à beaucoup de choses, mais en particulier à la fascination pour les plans de découpe. Il y avait, vous savez, les albums sont construits dans les pages format paysage avec beaucoup de navigation horizontale. C'est pas des cases, hein, Barbapapa, c'est des planches. Et j'étais fasciné par les plans de découpe des maisons ou des habitations des Barbapapa. Donc ça, c'est un souvenir qui m'est marqué. Puis mes parents m'avaient abonné à J'aime lire. Je sais pas si vous avez eu cet abonnement-là. Abonné aussi à Pif Gadget,
Bien sûr.
voilà, et puis les Picsou, le manuel des 14 juniors, ça c'est un ouvrage, le manuel des 14 juniors, dont je me souviens avoir intensément, je crois que j'ai lu toutes les pages et plusieurs fois, le côté encyclopédique de ce manuel-là. Et je me souviens dans la cuisine de ma tante lui expliquant toutes sortes d'astuces ménagères que je trouvais dans les. Elle m'écoutait gentiment dans le manuel des 14 juniors. Ça, c'est un souvenir. Côté littérature, un souvenir qui m'est revenu, là, en y pensant, c'était Ivan Noé. Je sais plus trop à quel âge je l'ai lu, mais j'étais avant mes 10 ans. Et je me souviens de la longue durée de cette lecture, parce que je suis un lecteur assez lent. Donc c'est assez océanique de me plonger là-dedans, mais vraiment d'avoir été emporté par la verve épique, hein, enfin l'engagement dans l'épique, l'aventure. Voilà. Ça c'était un très beau souvenir de lecture d'enfant. Oui.
Mais c'est intéressant que tu rappelles quand même que ces souvenirs de lecture ne soient pas forcément liés à des chefs-d'œuvre qu'il faudrait absolument avoir lus, mais que ton rapport à la lecture peut s'être développé aussi au contact du menu fretin, de petites histoires comme ça, comme Pif Gadget, effectivement, ce serait intéressant. Puis je suis assez aussi intéressé par ce que tu viens de dire, enfin partout évidemment, mais je retiens aussi cette dernière chose que tu as mentionnée, tu as dit que tu étais un lecteur lent. Et c'est des choses dont on parle assez peu souvent, je crois, ou alors j'écoute pas les bons podcasts, mais ou autres émissions. Mais moi aussi, il me semble que je suis assez lent et j'aimerais bien savoir. Je sais pas pour toi, Ghislain,
Alors,
si tu souffres de cette même lenteur.
je ne sais pas si je suis un lecteur lent, par contre, je n'ai jamais compris les fast learners. Donc, ceux qui lisent sur leur liseuse avec comme des flashcards, et donc les mots passent à toute vitesse,
Oui.
c'est juste pas possible. Mais c'est peut-être lié au fait que moi j'adore justement cuisiner les mots, non pas avec une poêle, mais avec mon stylet. Et donc, c'est totalement incompatible avec le fait de lire les phrases au kilomètre comme si j'étais en train de faire un sprint.
Oui.
Je crois
Woody
que
Allen
c'est.
s'était mis, Woody Allen s'était mis à la lecture rapide, à la méthode de lecture rapide, et il
Ouais.
l'avait appliquée à Gary P. Tolstoï, et on avait conclu que ça parle de la guerre.
Excellent.
Ouais, excellent. Ouais. Et je crois que c'est Roland Barthes aussi qui disait qu'il passait aussi beaucoup de temps le nez hors de son livre, en fait. C'est-à-dire que ça provoque des moments de rêverie ou de réflexion ou de pensée, peut-être qui se concrétisent notamment par une prise de notes, et ce qui fait qu'évidemment ça ralentit encore la lecture.
Ceci fait une très bonne transition, puisque on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, dans nos lectures très numériques, on pourrait cultiver une forme de lecture en diagonale. Mais toi aujourd'hui, François, quelles sont tes pratiques de lecture à l'heure présente?
Alors, je distinguerai la lecture de littérature de la lecture. Si vous avez une meilleure formulation que pour désigner la lecture d'études et d'informations, peut-être un terme plus générique qui conviendrait mieux, mais disons, si je distingue la lecture fiction, non-fiction, on dirait en anglais, pour moi, la lecture de littérature est essentiellement une lecture de lit. Mais alors, obstinée, ça veut dire j'ai ce rituel du coucher, je peux difficilement m'endormir ou éteindre sans avoir lu au moins quelques pages. Alors comme je suis un lecteur lent et que je lis dans des situations où je suis déjà très fatigué, c'est vraiment quelques pages, c'est parfois 2-3 pages. Et ce qui a fait par exemple que la correspondance de Flaubert, que j'ai lue en entier, ça m'a pris peut-être 2 ans, enfin très longtemps, à ce régime-là. Mais c'est vraiment un rituel très important, vu qui est assez commun, je crois. Hein. Donc ça c'est pour la littérature. Que j'ai du mal à lire autrement que dans le lit, en vérité. Sauf en vacances, là, les lectures d'été, évidemment, qui sont sur le transat ou qui se font en extérieur. Et puis, pour ce qui est de la lecture d'études et d'informations, qui est ma principale lecture en vérité, j'ai peine à enfin, j'observe avec une certaine peine que je ne peux m'y livrer vraiment que dans les moments dégagés de ma productivité professionnelle et de mon temps de travail professionnel. Parce que comme tant de personnes, tant d'entre nous, j'ai une vie professionnelle avec beaucoup de tâches et de micro-tâches, enfin de gros projets et de micro-choses à faire. Et dans la journée de temps de travail, c'est extrêmement dur de dégager du temps pour lire des choses qu'on doit d'ailleurs lire pour son travail, étudier hein, pour son travail, lire des rapports, etc., ou des études un peu approfondies. Donc ça, c'est une légère douleur professionnelle, en fait, qui est assez commune, hein, je le sais. Le manque de temps au travail. Alors voilà, donc c'est intéressant je sais qu'il y a des gens qui installent des plages horaires, qui bloquent des plages horaires dans leur agenda pour vraiment le consacrer à l'étude, mais j'ai du mal à le faire. Donc mes moments de lecture, même d'études et d'informations, pour l'étude professionnelle, je dirais, et personnelle, c'est vraiment, bah, c'est en fait à la maison ou dans les transports en commun. J'aime beaucoup les transports en commun pour ça, les moments de lecture qu'on peut avoir. Mais j'ai loué récemment, enfin, je me remis au vélo là depuis un mois, et donc ça c'est fini. Maintenant je bascule sur les podcasts,
C'est moins
ou
pratique de
plutôt.
faire du vélo et de lire son...
Exactement, c'est moins
Pas
pratique.
évident, en
Il y en
effet.
a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Donc c'est moins pratique. Mais le podcast, alors d'une oreille seulement, hein, pour garder une oreille sur la circulation. Voilà, et donc j'ai aussi un rituel très important, papier, très très important, c'est le rituel de la presse papier. Alors pour nous, c'est le samedi matin, on va acheter la presse du week-end, donc je vais l'acheter avant le petit déjeuner, je vais l'acheter chez le libraire. Au libraire, je vais voir cette personne-là, voir son. Donc, il n'y a pas beaucoup de libraires, c'est enfin de moins en moins en tout cas. Donc c'est très important. Donc je vais acheter, dans ce qui me concerne, j'achète le Monde papier avec le supplément, j'achète Libération et j'achète un journal belge qui est remarquable qui s'appelle L'Écho, qui est un journal économique, j'allais dire mais, et qui a des pages du week-end vraiment passionnantes avec des suppléments. Vraiment très intéressant. Donc c'est ma lecture, mais bon, ça prend la semaine en vérité, hein, parce que je lis pas tout ça au petit déjeuner, quoi. Mais ça, c'est bon d'avoir sur la table ces journaux qui restent durant toute la semaine. Et puis oui, les études, les moments de lecture importants, c'est les moments estivaux, les moments des moments de vacances où là on a du temps justement. Et donc bien sûr les longues lectures d'été où là ça va être de l'essai ou du roman, mais avec des lectures très suivies, très agréables pour ça. Ouais. Et alors pour ce qui est des supports, parce que je pense que la question est aussi sur
Exactement. Mais
les
c'est bien,
supports.
tu as intégré le papier
Oui,
immédiatement dans la
c'est bien.
conversation.
En fait, on n'a même plus besoin de poser les
Non,
questions,
non, vous
François a
pouvez prendre un
tellement
café,
bossé
je continue
le
tout seul,
sujet que
je gère la baraque.
tu gères le
Donc
podcast. Très bien, à
un
tout à l'heure.
podcast, ouais. Pour ce qui est des supports, mais là j'énonce rapidement une petite liste parce que je pense qu'on va en reparler ensuite. Donc c'est à la fois des écrans et des applications. En plus du papier, donc il y a le Kindle évidemment, format device, l'appareil Kindle et l'application. Il y a l'iPad, très important, je dirai pourquoi je crois un peu plus tard. Des applications comme Readwise, on en reparlera. Et puis des applications de gestion de notes comme Obsidian, on en parlera aussi.
Oh oui, avec plaisir.
Bien, puisque nous avons utilisé cette Madeleine de Proust pour nous replonger dans ces moments de l'enfance de François, nous allons passer cette fois à l'adolescence, puisque c'est vraisemblablement à cet âge-là que François a goûté à sa première gorgée de bière. Mais cette fois, ce sera une gorgée de bière littéraire et digitale.
Donc, là, pour répondre à la question à quel a été mon premier contact avec la lecture numérique, alors c'est intéressant comme exercice, comme question, parce que j'y réfléchis. Il me semble, je pense pouvoir dire que ça a commencé dans les années 80, début 80, avec le Minitel. Alors, ça, j'appellerais peut-être plutôt ça la proto-lecture numérique, parce qu'on lisait, mais on lisait quand même des
Ça
pages sur
dépend
l'écran, parce que.
sur quel, j'allais dire quel site, mais
Oui,
sur quelle adresse tu
quelle
allais.
adresse on allait, voilà.
Voilà.
Donc, mais je me souviens, il y avait quand même du contenu rédactionnel là-dessus. donc sur ce service de vidéo-texte en fait. Alors je me souviens de lecture, alors je ne me souviens pas de grande lecture en vérité, mais c'est quand même voilà, une première expérience de lecture à l'écran de texte. Outre la fascination totale que j'avais enfant dans les années 80, j'avais 10 ans, hein, la fascination totale pour l'appareil, c'était quand même comme avoir un ordinateur, comme à la télé, dans les films de science-fiction ou les séries de science-fiction. Alors j'ai beaucoup joué avec l'appareil éteint même, en mimant, c'était curieux, hein, en mimant les gestes.
Ça coûtait très cher aussi, hein, donc c'était pas mal que ça soit éteint. Rappelons-nous le
Oui,
prix des
ça aussi. Oui,
communications.
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup joué à tapoter sur le clavier. Alors même quand on pouvait allumer l'écran et puis quand même entrer des caractères, on pouvait saisir du caractère à l'écran cathodique là, avant même qu'il soit connecté au réseau, il me semble, hein.
Tout à fait.
Donc voilà, donc j'ai des grands souvenirs de jeux avec cet appareil-là. Puis il y a eu ensuite, alors pas tout à fait encore la lecture, mais bon, les premiers Apple, nous on n'avait pas à la maison, mais j'ai pu en manipuler. L'Apple II, c'était chez un ami, un petit peu de jeu. Apple III au lycée, dans le petit club informatique, pour jouer un peu. Je suis pas un grand joueur. Pour coder un peu de basique, mais bon, là on n'est pas encore dans la lecture. Donc je dirais que la lecture sur ordinateur, sur écran, commence vraiment en 89. Pour moi, avec l'obtention d'un Mac SE, donc c'était les premiers Macintosh,
Monobloc.
hein. Monobloc, oui, très très bel appareil en 89. Alors dans mon souvenir, il n'était pas connecté à Internet, hein, c'était que des disquettes.
Oui, tu avais
Tu
des
pourras en faire un
disquettes.
son.
Hein. Internet n'existe pas encore, de toute
C'est ça,
manière.
ouais.
Et les seuls réseaux à l'époque, c'est du
Eh
réseau
oui.
local avec Apple Talk. Mais tu peux trouver très facilement sur Internet aujourd'hui des gens qui surfent avec un Mac SE, avec.
Ah oui?
Ah oui, et même avec
Incroyable.
des sites optimisés pour ce petit écran
Ah!
monochrome de 9 pouces. C'est tout
Magnifique.
à fait prodigieux.
Magnifique. Non mais j'ai intense, c'est un appareil que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et alors je dirais que fun fact, j'ai sans doute de ce fait commencé à lire vraiment à l'écran mes propres textes. Enfin c'est moi que j'ai commencé. Je me suis lu moi-même d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à utiliser cet appareil, je commençais mes études universitaires. Et donc je l'utilisais pour prendre des notes, pour écrire, pour constituer des bases documentaires et des textes, etc. Et donc je me suis lu moi-même. Donc voilà, c'est la lecture d'étudiant qui lit ses propres textes. Parce que j'avais pas beaucoup d'autres textes écrits par d'autres à lire là-dessus, il me semble, à cette époque. Ouais. Je me souviens ensuite, 91, 91, la lecture de dépêches AFP sur des écrans quand je faisais un stage à Libération. Il y avait des ordinateurs, des PC à Libération, mais dans mon souvenir, ils étaient utilisés essentiellement pour écrire les journaux, les articles de la presse papier. Et c'était sans doute, il y avait de la connectivité, j'imagine, hein, mais c'était pas encore Internet, effectivement. Donc Internet, donc c'est 94. Et alors moi, je l'avais pas encore à ce moment-là. Et puis voilà, 97. Là vraiment, c'est là où je commence à lire des textes d'autres personnes, des textes du web. Et donc c'est à la fois le web et bien sûr, on s'en souvient tous, et c'est toujours là, les listes de diffusion. Beaucoup de correspondances, hein, beaucoup d'épistolaires en fait, beaucoup de correspondances et de forums. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de volume de lecture à travers ces modalités-là. Et c'était parti. Voilà.
Donc, une belle histoire. On vient de faire une archéologie ici de ta lecture, mais aussi de ton écriture. Ça, c'est un sujet qu'on aura certainement l'occasion d'aborder ensemble sur cette très forte accointance qu'il y a dans tes pratiques entre l'écriture et la lecture. Tu évoquais tout à l'heure ta pratique du samedi matin pour aller chercher chez le libraire tes journaux. Il y a donc ce papier qui, même s'il n'est pas lu, est sur la table du petit déjeuner. Quelle est ta position? Est-ce que tu es un ardent défenseur justement de ce papier? C'est pour ça que tu tiens absolument à retourner chez le libraire le samedi matin? Ou est-ce que finalement ce n'est plus qu'un reliquat dans l'ensemble de tes pratiques, notamment quotidiennes liées au travail?
Alors, je pense que comme vous deux, j'imagine, hein, je pense que j'ai une position que j'essaye d'être. Enfin, que j'essaye d'être. En fait, non, elle s'impose à moi, cet équilibre-là. En liminaire, je dirais que je défends les deux. Et je reconnais leurs dynamiques entremêlées pour les deux. Et je tiens à la fois au papier et à l'écran, autant au papier qu'à l'écran. Et puis, je voudrais dire que ce soit papier ou écran, c'est toujours la lecture. Je pense que ce qui nous intéresse ici, ce à quoi nous voulons accorder de la primauté, c'est la lecture, plus qu'au primat du support. Donc, c'est toujours la lecture quand même. Donc, il ne faut pas se tromper de, disons, ce combat. Ce dialogue est intéressant, cette controverse est intéressante, bien sûr, passionnante, importante, mais C'est quand même pour la lecture qu'on défend le papier et l'écran. Et pour les valeurs intrinsèques de lecture et contre tout ce qui peut menacer la lecture. Donc je pense que papier et écran sont unis, peut-être unis pour la défense de la lecture. Mais bon, on va affiner un petit peu ça.
C'est très
Je
bien, on a
dirais que
parlé de
pour.
PIF Magazine, on pourrait faire un slogan justement un peu dans la filiation, papier, tablette, mobilisez-vous, la lecture avant tout, vous voyez, on est
Contre le
presque...
crapulax. Contre le crapulax de la qui menace la lecture. Ouais. Alors pour ce qui est du livre, évidemment, comme vous, hein, moi j'adore le livre, bien sûr. Même les livres que je ne lis pas, je les aime. J'aime avant tout la matérialité, la sensualité, la présence matérielle, la matière même, la physicalité du livre. Hein. Le livre, vous savez, ça se hume. Je ne peux pas ne pas renifler un livre. Et plusieurs fois, je renifle les livres. Parfois, c'est décevant parce que ça sent pas grand-chose. Parfois, c'est presque capiteux ou c'est entêtant ou ça sent les. Il y a parfois un peu. Le papier se décompose un peu, hein, donc il y a des
Oui,
phénomènes
parfois ça sent
organiques.
mauvais
Je
en
trouve
fait.
ils sont
Hein.
mauvais.
C'est
Voilà. Alors,
le bouquin
oui.
avec les acariens qui a traîné dans une cave.
Voilà,
Ça
ça peut
sent un peu
sentir mauvais. Mais
l'humidité.
il y a une bonne odeur du vieux livre aussi. Donc je ne disqualifierais pas tout à fait le. Il y aurait sans doute du vocabulaire de fromage à appliquer ici ou de certaines pourritures ou des choses comme ça.
Bon,
Bon, en tout cas.
je vous propose de quitter la cave et d'évoquer
Aïe.
plutôt ce livre qui sent bon,
Aïe.
le parfum de la demoiselle que
Oui.
nous avions rencontrée il y a 15 ans. Et par magie, j'allais dire les
En tout
phéromones,
cas,
non, mais c'est plutôt le parfum, resté
plutôt le
encapsulé dans les
parfum,
pages
ouais.
du livre.
En tout cas, je trouve que là, il y a de la place pour une autre partie hein, de notre questionnaire. Hein. On avait la madeleine, on a la bière, mais on a aussi le fromage et la cave. Je trouve
Ah,
que c'est
exactement, très
intéressant.
bien. Oui,
Nous
magnifique.
pouvons
Et le
dès à
vin
présent
aussi. Hein.
penser à renommer une de nos parties pour
Pour le
intégrer.
troisième épisode, il y aura
Exactement.
une nouvelle section, je l'annonce aux auditeurs.
Pouvez
Tartine
filer une
fromage.
métaphore. Ouais.
Donc voilà, vraiment la matérialité du livre, sa beauté comme objet, etc. Et puis la manipulation, vraiment la manipulation du livre. Hier encore, sur un livre papier, je voulais comparer, suivre une idée sur plusieurs pages et je me suis retrouvé, voilà, sachant que j'allais parler de ça, j'étais un peu attentif à ce que je faisais et je me suis rendu compte que je tenais 3 ou 4 pages entre 2 ou 3 doigts. Entre toi, trois doigts. Et donc ce plaisir de pouvoir glisser les doigts entre les pages et pouvoir faire comme ça cette navigation, le doigt qui glisse sur les pages et pouvoir très facilement aussi aller venir. Moi je trouve que c'est assez souvent quand même plus facile que sur une version numérique de pouvoir circuler et feuilleter un livre papier. Donc c'est très
Pour
important.
passer d'un passage à un autre.
Oui. Ou avoir, tu vois, avec maintenir plusieurs pages. Entre ses doigts, comme des repères, et pouvoir les naviguer très rapidement de l'une à l'autre.
Parce qu'il y a une fonction dans Kindle, par exemple, qui va permettre de quitter la page qu'on lit pour en
Oui.
consulter une autre, mais effectivement, on va se limiter à quelque chose d'assez
Oui,
binaire.
alors, oui, et j'ai un rapport compliqué avec cette fonction, parce que d'une part, comme tu l'as dit, c'est qu'on ne se dirige que vers une page, et j'ai eu des expériences où je me suis perdu, en fait. J'ai pas su retrouver. Alors, quand c'est pas un grand livre, ça va, mais quand c'est la correspondance de Flaubert, c'est compliqué.
Oui, c'est 2 ans de lecture.
C'est ça qui file entre tes doigts.
J'aime beaucoup en
Voilà,
tout
donc.
cas cette sensibilité que tu évoques, parce que si on fait un peu le champ lexical de ton propos il y a quelques instants, c'est stupéfiant de sensibilité, de matérialité, et on peut questionner justement ce rapport à l'objet par rapport au numérique, puisque si on regarde le vocabulaire qu'on va employer pour les tablettes, on va être sur quelque chose d'assez similaire, on est presque à caresser l'écran, on va presser des boutons, on va aussi glisser son doigt. Alors je ne dis pas qu'on va humer sa tablette, mais puisqu'il y a un revêtement normalement antibactérien sur les écrans, mais il y a aussi cet aspect tactile, et toi, par ton ressenti, qu'est-ce qui, d'un point de vue cognitif, marque une véritable rupture entre ces deux matérialités, qui sont le livre que tu peux bien manipuler, mais la tablette que tu vas aussi manipuler avec tes doigts?
Oui, je méfierais un petit peu du vocabulaire parce qu'on sait très bien, c'est très habituel dans l'histoire des technologies, tu sais que on utilise du vocabulaire de la technologie d'avant pour désigner des artefacts nouveaux. L'écran, enfin pardon, la page web typiquement, par
Oui.
exemple. Donc là, on peut être un petit peu abusé par du vocabulaire ancien tant qu'on n'a pas trouvé le mot nouveau. Mais c'est vrai que, comme vous, je suis sensible à la beauté matérielle des outils numériques que j'utilise, et je ne remercierai jamais autant assez, je crois que c'est Yann de m'avoir indiqué, préconisé l'achat d'un certain film sur l'iPad, j'ai oublié le nom de cette marque, mais enfin, en tout cas, un film qui produit un effet un peu granuleux, un peu.
Mochi peut-être, je sais
Mochi,
plus.
oui, un effet. Enfin, qui est à la fois anti-reflet et une sensation que le stylet de ne pas être sur une vitre, mais sur quelque chose de plus granuleux. Mais bon, enfin, le livre, il est imbattable, hein, sur le, quand même, sur le. Dans sa variété de formes, de couleurs, de textures, de matériaux, de matériaux, de grains de page, de grains de papier, etc. Oui.
Mais c'est vrai que sur cette question de la matérialité, y a un point qui m'intrigue quand même parce que moi j'ai tendance, je l'ai confessé la dernière fois, à être très écran. Hein. Il y a de plus en plus d'écrans dans ma vie et le papier tend à disparaître. Et je suis sensible au design, à la matérialité de la tablette, mais le point qui me gênerait avec cette matérialité, c'est elle semble vouée à être périmée. Si le design n'est pas très bon, mais avec aussi cette manie de la Silicon Valley de vendre un produit, tu vois, on est dans l'innovation perpétuelle. Donc, ce qui est nouveau doit être périmé très vite, doit périr très vite pour être renouvelé encore et
Bien sûr.
encore et encore.
Oui, et
Oui,
puis le
vas-y.
pardon, le fait que le livre a vieilli, le fait que quand tu achètes un livre d'occasion, quand tu as beaucoup lu un livre, les pages sont salies, tu repères à la crasse un petit peu tes endroits de lecture intense. Enfin, c'est beau, un vieux livre, ça peut être très beau.
Oui, cela dit, ce que je m'en rends compte maintenant, mais ce que je viens de dire sur la tablette, ça peut s'appliquer aux livres. Il y a des designs de livres qui sont très, très laids, en fait. Quand
Ah
tu
oui.
vas chez un bouquiniste tu trouves sur un rayon des ouvrages de, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, France Loisirs, comment ça s'appelait ce truc-là qui
Oui,
vendait des
France
livres à...
Loisirs ou
Oui, c'était tout moche en
Club
fait.
Loisirs ou
Club
France
Loisirs, je
Loisirs.
sais plus. Enfin bref.
Et donc, il reste quand même des avantages pour le numérique, selon toi, François?
Alors attends, j'avais pris encore quelques notes
Ah.
sur l'avantage du livre quand même. Donc il y avait sa matérialité, d'accord. Mais en fait, je répète un peu des choses que j'ai entendues dans votre dernière émission, hein, la simplicité, l'efficacité du livre, sa liberté, le fait qu'on puisse le prêter, qu'on puisse le
Oui.
donner, vous en avez beaucoup parlé la dernière fois, sa solidité, sa durabilité, le fait qu'il n'y a pas de batterie qui va s'épuiser, qu'on peut le lire dans différents modes d'éclairage, et pas de mise à jour, etc. J'ai essayé de chercher pour aujourd'hui, mais j'ai pas retrouvé une publicité parodique, je crois que ça a été fait par des Espagnols, où ils avaient pris tous les codes publicitaires d'Apple, le blanc, etc., où c'était pour expliquer la création révolutionnaire du livre. Et donc ils passaient par toutes les fonctionnalités, qu'il y a un index, qu'il y a une table des matières, qu'on n'a pas besoin de le charger, qu'on peut mettre un marque-page, tu vois, un truc comme ça. Donc sa solidité, voilà. Donc ça c'est pour les valeurs du livre, mais maintenant, Ghislain, tu me demandes si.
Qu'est-ce qui reste comme avantage au numérique? Parce que si on t'écoute et qu'on doit sortir une balance, on se dit, oui, tu disais en préambule que tu défendais les deux, mais à t'écouter, on sent que ton cœur palpite à la simple évocation de caresser les pages d'un livre. Et donc, qu'est-ce qui reste au numérique dans ce cas?
Ouais, alors évidemment, alors, le numérique n'a à peu près rien de toutes les dimensions que j'ai évoquées précédemment du livre, mais il a évidemment beaucoup d'autres avantages que le livre a très peu ou sinon n'a pas du tout. Et tout ça tourne autour, pour moi, essentiellement de l'acte de lecture, écriture, étude, indissociablement. La lecture, la notation, la captation, la rétention, des traces, etc. Le multi-accès synchronisé entre différentes interfaces. En ça, le livre, évidemment, est un objet unique qui n'existe que dans un lieu et sous une forme unique. Donc ça, le numérique, ici, a des affordances, enfin, des capacités, des caractéristiques bien, bien supérieures. Mais on va en parler un peu plus avant, après, hein, parce que je repense, j'avais été très frappé par un très à la fois amusé, fasciné en vérité par une remarque qu'avait faite Yann il y a quelques années. Je crois, Yann, tu visitais à Londres une exposition de livres du Moyen Âge et tu avais fait remarquer que le livre numérique, en un sens, réactive des caractéristiques du livre médiéval, parce que tu avais pris des photos, tu sais, le fait que le livre médiéval est plein de petites, qu'on appelle ça, tu sauras mieux le dire que moi, des
Oui,
ajouts,
alors
des banderoles de
je crois
texte.
savoir à quoi tu fais référence. Et effectivement, alors je crois que c'était à Oxford. En fait, je me baladais à Oxford. Enfin, j'attendais ma fille qui passait des examens. Et il y avait cette exposition. Et dedans, dans cette exposition, si on parle bien de la même chose, je me souviens notamment d'avoir vu un livre qui avait été conçu avec des marges assez grandes
Oui,
pour
c'est
permettre
ça.
justement l'annotation. Et je ne sais plus quel est le lien que j'avais fait à Wikipédia qui s'imposait quand on était en face du livre et de la petite notice qui l'accompagnait. Mais concrètement, il devait y avoir un moyen d'assurer un va-et-vient entre bah, le détenteur du livre, son annotation et puis le suivant. Je ne sais plus
C'est ça.
exactement,
Ça renvoie à
mais
ce
c'était
que
ça.
j'évoquais d'ailleurs lors du premier épisode, où je crois avoir dit à peu près dans ces termes que le charme du livre, c'est effectivement le dialogue qu'on va avoir, et pas uniquement avec l'auteur, mais aussi avec les précédents lecteurs qui vont avoir C'est noté. ça.
Et durant mes études d'histoire, c'est clair que toute la partie médiévale était pour moi hautement enthousiasmante, parce que je passais plus de temps à aller étudier ce que les moines avaient ajouté dans les marges, même si c'était juste des relevés de compte de la précédente moisson, plutôt que d'aller lire le contenu qui, dans l'absolu, était juste un détail de ce qui avait été récolté. On y apprend beaucoup plus en allant chercher ces notes marginales.
C'est ça. Et alors cette idée qu'un un médium tout à fait nouveau, moderne, ultra moderne, peut réactiver des potentialités, des capacités de médium très ancien, c'est intéressant, c'est une question intéressante à poser à tous les médiums, comme à l'IA par exemple dans l'éducation. Qu'est-ce que l'IA peut permettre de peut-être de dépasser, mais aussi de réactiver? Et je vous invite à regarder du côté de McLuhan, le théoriste canadien, Marshall McLuhan. À la fin de sa vie, il a écrit un bouquin sur la logique des médias, la logique d'évolution. C'est presque une approche évolutionniste des médias, hein, et des supports. Et il a développé un petit outil qui est assez intéressant, pardon, qu'on appelle la tétrade de McLuhan. On trouve ça sur Wikipédia. La tétrade de McLuhan, et c'est une tétrade parce qu'il pose quatre questions à un médium. À chaque fois, il pose la question: qu'est-ce que le médium renverse par rapport au médium précédent? Qu'est-ce qu'il améliore? Qu'est-ce qu'il rend obsolète? Et puis la quatrième question, c'est: qu'est-ce qu'il retrouve? Qu'est-ce qu'il réactive? Et c'est assez fascinant cette façon dont l'histoire avance comme ça, où là, il y a à la fois des grandes ruptures, mais ces ruptures peuvent signifier aussi des retrouvailles avec des pratiques anciennes. Voilà.
N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'on pourrait reprendre dans le terme révolution qui est employé
Eh oui.
dans tous les slogans, puisque la révolution planétaire, c'est bien le retour à la position initiale de la planète autour de son astre, finalement. La révolution de tel support, c'est aussi effectivement des retrouvailles, c'est très joli.
Oui,
Alors,
sauf que c'est en spirale par contre, parce qu'on revient quand même fort de l'histoire qu'on a eue entre-temps.
Mais est-ce véritablement un retour à la position initiale intégralement? Il y a eu certainement des
Non, non.
altérations dans le parcours.
Ah oui, c'est sûr.
Et donc, tu nous invites finalement à nous dire que le livre numérique ne pourrait pas remplacer le livre papier, il pourrait peut-être s'en inspirer, il pourrait retrouver des pratiques. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui. Alors, je ne pense pas que le livre numérique va remplacer totalement le livre papier, mais va reconfigurer le paysage de lecture, ça très certainement. Alors, bon, d'abord, il y a des imaginaires, c'est compliqué, hein, parce qu'on est pris soi-même dans des imaginaires, dans des fantasmes de la perte et des obsessions qui tournent parfois dans des obsessions un peu réactionnaires de décadence quand on observe les tendances très fortes, hein, de lecture qui basculent beaucoup plus sur l'écran que sur le papier. Donc c'est ce que de Régis Debray, qui est une référence enfin, importante ici, je trouve, appelle l'angoisse médio, hein. C'était l'angoisse de Platon déjà, hein, vous le savez bien, avec l'invention de l'écriture dans le tête-à-tête, avec l'angoisse de la perte de la mémoire. C'est l'angoisse de l'homme religieux dans Notre-Dame qui dit, contemplant l'imprimerie et regardant la cathédrale, dit ceci tuera cela. Hein. Donc c'est y a un effroi, quoi. Mais bon, remplacer complètement le livre, moi j'en doute, évidemment, j'en doute pour le complètement. D'abord, on a vu, hein, le livre, oui, il présente des avantages matériels indépassables par sa physicalité, par sa matérialité, qui motiveront, je pense, toujours son utilisation et sa conservation. Je pensais, je ne vais pas en parler beaucoup ici, mais juste, je pensais, j'ai discuté récemment avec un ami qui m'a appris qu'il s'était mis au morse, enfin, mis au morse, non, il avait appris à l'armée le morse, le code morse, qui s'apprend de moins en moins, très rare. Mais qui présente une résilience et une solidité extraordinaire. Donc, si un jour les systèmes de communication mondiaux s'effondrent, le Morse pourrait nous sauver. Donc, c'est bien qu'on continue à apprendre le Morse dans certains endroits. Et bon, et c'est d'autant encore plus important qu'on continue à apprendre à lire des livres, évidemment, sur des livres. Alors, donc oui, ces caractéristiques le maintiendront. Durablement. Il a aussi, bien sûr, une formidable inertie culturelle, civilisationnelle, j'ai envie de dire, hein. Il est là depuis tellement longtemps, et il est tenu par une telle complexité d'intrications et d'acteurs et de forces que je le vois mal se déconstruire. Et puis, il est heureux et important qu'on continue à l'utiliser dans les écoles. Moi, je suis assez favorable aux manuels scolaires. Enfin, je suis favorable à la fois aux écrans dans les classes, avec une diététique des écrans, bien sûr, mais aussi aux manuels scolaires. Et une des raisons pour laquelle, alors, c'est pour bien sûr acculturer la lecture du livre, mais aussi parce que cette dimension de textes communs de référence. Hein, je lisais récemment un bouquin, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Olivier Hirschfeld, Affordance Info. Il écrit un petit livre sur ce qu'il appelle le web synthétique, enfin l'idée que le web est aujourd'hui au moins pour moitié écrit par des robots, des chatbots algorithmiques, et que donc ça s'écrit, ça se réécrit. On ne sait plus qui est l'auteur. Voilà, l'auteur, ça a mis du temps avant de stabiliser. La notion de texte stabilisé a mis du temps à se construire, et c'est quelque chose qui est important à défendre, je trouve, d'avoir une référence commune. Je trouve, voilà, justement, le manuel, le livre partagé, commun dans la salle de classe, est très important pour ça, je trouve, pour créer ce sentiment de pouvoir tous se référer au même texte. Parce que même Wikipédia, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est pourquoi on dit toujours, quand on met en référence, on dit consultez-le, on dit à quel moment on l'a consulté. Donc voilà, donc je pense que le livre a des vertus qui vraiment le maintiendront. Mais c'est vrai qu'il est de moins en moins utilisé. Les habitudes de lecture basculent. Hein, le Centre national du livre en France fait des enquêtes là-dessus et le constate, bien sûr, l'augmentation du numérique pour la lecture, et ça va s'intensifier. Et puis, il y a, ça, je tiens ça aussi sur des remarques de Régis Debray, mais il y a une. On ne peut pas tellement aller contre. Enfin, ça va dans le sens d'une tendance, enfin, j'allais dire éternelle. Presque structurelle, qui est que les supports de l'écrit et de la lecture tendent, de toute l'histoire de l'humanité, tendent vers le compact. Ils tendent vers le compact, ils tendent vers le maniable, ils tendent vers le léger. Et
Il
on a
se
vu ça
déplace avec
avec.
nous.
Et se déplace avec nous, oui, la portabilité aussi. Oui, c'est ça, la Bible, c'est le dieu portable, en fait, le dieu de poche.
Et l'islam a pu aller aussi vite et aussi loin parce qu'il était transportable.
Oui, c'est ça. Mais donc, il y a vraiment une supériorité. Il y a une tendance vers ça, technologique des supports, où les supports qui gagnent, c'est ceux qui sont plus compacts, plus maniables, plus légers, plus transportables. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui se confirme avec la lecture sur support écranique. Ouais. Et puis voilà. Bah, évidemment, bon, il y a des problèmes. Les problèmes, le temps, le problème, c'est que cette augmentation du temps de lecture sur les écrans, ça détourne du temps de lecture quand même, parce que les écrans, bon, sont assez distractifs, hein, évidemment. Et on passe beaucoup de temps à faire autre chose que lire des livres sur les écrans aussi.
Si je me permets de
Vas-y,
t'arrêter
ouais.
ici
Je t'en
quelques
prie.
instants, parce que je pense que Yann et moi, on aurait certainement beaucoup aussi à rebondir sur ce sujet, puisqu'on voit qu'on est sur une ligne de crête, puisqu'on a passé quelques minutes ensemble à dire que finalement, que ce soit un écran, que ce soit un livre, en fait, le plus important, c'est la lecture. Et on voit bien que peut assez vite revenir au galop cette question que l'écran est distractif et qu'il nous empêche de lire. Est-ce qu'on peut creuser un peu cette ambivalence que nous avons présentement?
Oui, très volontiers. Et si je me permets avant que tu répondes, parce que je crois que tu as employé l'expression tout à l'heure de diététique de l'écran,
Oui,
quelque
c'était
chose comme
d'ailleurs
ça.
intéressant par rapport à notre chapitrage de
Oui.
podcast. On restait dans
Et
un vocable.
j'aime bien l'expression. Alors, c'est vrai que si on peut revenir sur la diététique numérique, c'est intéressant. Oui.
Oui. Mais tout à fait. Mais écoutez, le Je me souviens avoir eu cette conversation avec toi, Yann, à une époque, et tu étais agacé de ce. Je me souviens, Yann, tu étais colère. Je me
J'étais
souviens,
en
tu étais colère, tu étais un
À
peu
quel
chafouin
propos?
contre ceux qui disent que le livre a cette vertu de concentration un peu intrinsèque, pas la page, pas sa structure. Voilà. Et tu rappelais à quel point on peut être distrait par autre chose quand on lit. Et tout à l'heure, tu as dit, je sais plus qui te parlait de Barthes, qui disait, je passe beaucoup de temps à ne pas lire quand je lis un livre, finalement. Bon. Bon, mais quand même, c'est vrai que le livre. Alors, apparemment, pagina, page. Bon, en latin, à l'instant, on parlait du fait que quand on invente une technologie, on prend un mot d'une technologie précédente. Et alors, apparemment, pagina, le mot latin pagina était utilisé avant qu'il soit utilisé pour désigner une partie d'une page dans un papyrus, hein, une page, hein, de livre. C'était désigné pour désigner, ça servait à désigner des cultures agricoles, enfin un champ et un champ, donc un espace clos. Avec des lignes, des rangées de vignes par exemple. Et donc c'est vrai que le mot pagina connote la concentration quand même, ou la limitation, l'espace clos. Alors ça c'est quand même une vertu de la page assez forte, moi je trouve, même si je suis d'accord avec les nuances que tu as apportées, Yann, tandis que l'interface web ou le numérique, c'est Windows, c'est intéressant que ce soit un pluriel, c'est des fenêtres, et il y a toujours quelque chose qui clignote quelque part, il y a toujours. D'où l'importance que nous partageons ensemble, je crois, d'avoir des expériences de lecture écranique simplifiées, enfin, retrouver l'expérience de la page à l'écran. Voilà. Ah, et pour ça, il y a des outils divers, mais c'est très important, je pense.
Ouais, parce qu'on
C'est
sait
très
à
vrai.
quel point la moindre rupture d'attention va nécessiter une énergie folle d'un point de vue cognitif pour pouvoir revenir dans un régime de réflexion important. Et c'est sûr que on pointe là peut-être le point d'accord, c'est que il y a ici un apprentissage. C'est-à-dire que on peut donner n'importe quel appareil numérique si on n'a pas appris qu'il y avait un mode ne pas déranger, si on n'a pas appris qu'il y avait un mode lecteur dans son navigateur, si on n'a pas appris qu'on pouvait venir travailler les documents que nous étions en train de lire. Alors, on a une expérience de lecture numérique qui, au final, est une expérience dégradée par rapport à ce que nous pourrions obtenir avec un autre support, et en l'occurrence, le livre papier.
Je n'aurais pas dit mieux. Tu me le retires de la bouche, en fait. Elle est là, hein, la diététique numérique, je pense, hein, dans cet apprentissage, en fait. Et si on l'évacue, on va rencontrer des problèmes. Mais en fait, je pense aussi que finalement, cette expérience de lecture sur écran, c'est une expérience un peu plus complexe parce qu'elle nécessite justement d'intégrer cette notion de diététique, hein, apprendre à effectuer les réglages qui vont permettre de retrouver le cadre de la page, de la feuille, hein, puisque là aussi, on est dans une catachrèse, hein, c'est-à-dire que la feuille, c'est une feuille d'arbre, hein, au départ. Donc, il faut retrouver tout ça, mais ça demande un effort en fait. Je serais intéressé, il faudra que je fasse un jour un sondage à l'Institut Florimond pour savoir un petit peu combien d'élèves savent qu'ils peuvent utiliser quand ils lisent un article où il y a toutes sortes de publicités qui clignotent. Ils n'ont pas de publicité parce qu'on les a bloqués, mais ils ont d'autres choses, tu vois. Sur une page web, il y a toutes sortes de choses qu'on n'aimerait pas voir. Donc, combien sont ceux qui savent activer le mode lecteur?
Tout à fait. J'ai une dernière remarque à faire pour que, pas clore, mais en complément sur l'avenir du livre ou du papier. Il y a quand même la dimension écologique, hein, je dirais, parce que on n'est pas certain de pouvoir continuer à produire des supports numériques avec le volume auquel on les produit maintenant. Et chaque support a un coût, enfin, c'est vrai pour le papier aussi, hein, c'était vrai pour le parchemin avant, etc. Mais bon, il se peut que les contraintes écologiques soient telles qu'on doive réduire considérablement la production d'interfaces numériques. Et donc, dans ce cas-là, le papier, on pourra retrouver aussi son intérêt à ce titre-là aussi.
Oui, si on veut respecter certains impératifs écologiques, ce qui, à l'heure de l'élection de Trump, semble quand même un petit peu compromis. Mais tu vois, de ce point de vue, je me disais que mon iPad Pro, qui me sert comme toi aussi essentiellement en ce moment, soit à regarder des vidéos, soit à lire des PDF, en fait, parce qu'en fait, je suis un peu tombé en désamour avec mon iPad, mais c'est un autre sujet. Enfin, je suis tombé en désamour avec mon iPad. Le grand, le petit, c'est une autre affaire. J'en ai parlé pendant 10 épisodes. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, je sais. Mon iPad Pro, il date de 2018, tu vois. Donc, j'en suis pas peu fier quand même, tu vois. Je l'ai pas renouvelé. Ça va faire 6 ans.
Ceci dit, mon iPad de première génération fonctionne toujours et il y a toujours iBooks dessus avec les livres à l'époque. Oui. Mais c'est effectivement...
Premier iPad, donc 2004,
2010.
2010.
Avril 2010.
Mmh. Ah, t'as le mois.
Voilà. Mais ça rejoint...
J'étais à San Francisco à ce moment-là, je me souviens, j'étais allé le voir avec gourmandise.
Mais ça rejoint, Yann, ce que tu évoquais tout à l'heure sur... cette nécessité visiblement économique et médiatique de renouveler sans cesse. Il faut qu'une nouveauté chasse la précédente. Oui, mais rien ne nous empêche de dire non. C'est-à-dire cette capacité de refus peut
c'est
nous
dur
permettre...
aussi parfois.
Oui, très clairement. Il faut certainement se faire violence à certains égards. Mmh. Mais dire non, c'est aussi peut-être trouver ce point d'équilibre. C'est-à-dire, oui, j'ai choisi à un moment ce matériel totalement numérique, totalement anti-écologique, mais puisque je vais prendre soin de le garder pendant 10 ans, si ce n'est pas davantage, alors on est dans un cycle qui est quand même nécessairement plus vertueux. Mmh. Mais comme le disait François il y a quelques instants, ça va me permettre de te redonner la parole, c'est que les nécessités planétaires vont certainement nous l'imposer, d'être beaucoup plus respectueux à ce sujet.
Sur le long terme, c'est assez probable. En tout cas, c'est une possibilité à vraiment considérer.
Et donc toi, est-ce que tu as déjà anticipé par rapport à ton support favori ? Est-ce que ces considérations écologiques t'ont invité déjà à dire « Ok, bah, je vais plutôt privilégier ce support plutôt qu'un autre, parce que je sais, il faut que je me prépare aussi à ce que devra être la lecture dans 10 ou 15 ans
?» En vérité, je ne suis pas aussi vertueux que mon propos précédent l'annonce pour ce qui est de mes supports favoris, parce que je suis un peu comme Yann quand même, je bascule dans mon temps de lecture, c'est quand même massivement aujourd'hui du numérique. En termes de supports favoris, je dirais, alors pour la lecture de littérature, bon, toujours une pile de livres sur ma table de chevet, évidemment. Les bandes dessinées, vous en parlez la dernière fois. Pour l'instant, je ne peux les lire qu'en papier, avec un vrai plaisir qu'en papier, pour l'instant. Mais ça peut être très bien une question d'éducation aussi, hein, d'habitude, hein, bien sûr, c'est culturel, peut-être. Oui, alors, lecture littérature, j'aime beaucoup le Kindle, sur le device même, enfin l'appareil, mais beaucoup quand même, je crois que je lis davantage sur l'application du smartphone, pour plein de raisons que vous avez évoquées la dernière fois. Pour ce qui est de la lecture d'études, là, j'ai des contraintes, comme tu l'avais évoqué aussi, Guy, la dernière fois, il faut que je puisse annoter. Enfin, c'est impossible pour moi, très compliqué de lire un texte que je dois étudier sans pouvoir stabiloter, comme tu l'as dit, annoter, surligner. Donc, il me faut un stylo, un crayon, un stylet. Donc là, je vais utiliser beaucoup de lectures de PDF. Et pour ça, c'est l'une des raisons principales de l'achat de l'iPad Pro. Et avec ce petit complément de film qu'on rajoute sur l'écran. Et parce que l'iPad Pro, outre ses vertus, je crois que c'est le seul à avoir dans son catalogue d'applications une application d'une telle qualité que PDF Expert, qui permet, enfin moi j'ai pas trouvé aussi bien ailleurs, pour annoter, synchroniser. Donc c'était un peu le fait que cette application-là soit disponible que sur iPad qui m'a fait acheter l'iPad, outre ses caractéristiques propres, enfin, ses qualités propres. Donc il y a l'iPad pour l'annotation, il y a Readwise, on en parlera, il y a le Kindle aussi pour la lecture d'études, très important. On parlera tout à l'heure de la façon dont mes annotations me reviennent automatiquement. Oui, vous l'avez dit aussi la dernière fois, hein, dans votre émission, lecture à l'écran du laptop, enfin du portable ou de l'écran de bureau, c'est quand même assez compliqué, je trouve. C'est pas très confortable. Donc j'évite. Oui.
Et ici, je dirais bien quelques mots, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran de ce stylet, parce qu'en fait, là, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le voir, mais ça, c'est la version 1, enfin, c'est la version 1, la version 1 de la version 2. Hein. C'est-à-dire que c'est le stylet donc, qui ne se connecte pas, vous savez, comme ça, directement sur le port Lightning de l'iPad, mais donc.
C'est quelque chose de très sensuel, hein, cette
c'est quelque
connexion.
chose. Oui, celui-là, il est magnétique, alors il est attiré par l'écran, comme moi, un petit
Ah
peu,
oui.
donc c'est assez. Voilà, c'est la matérialisation. De mon obsession numérique, mais dans sa version 2 que j'ai au travail, je découvre des fonctionnalités qui ne me sont pas possibles avec celui-ci, et notamment on peut le pincer. Et donc, quand on le pince, quand on pince son stylo, on peut déclencher des actions. Tu sais, l'application Shortcuts, par exemple, donc raccourci en français, qui est une application donc d'automatisation. Vous le savez, mais au cas où quelqu'un nous écoute et ne sait pas ce qu'est Shortcuts, je raconte brièvement, mais avec Shortcuts, donc on va pouvoir comme ça automatiser toutes sortes d'actions. Et il y a quelque chose que je voudrais essayer. J'ai commencé comme ça, mais j'ai pas fini. Mais en fait, donc on peut créer un Shortcuts qui copie le presse-papier, vous voyez. Vous surlignez, vous copiez le presse-papier, et puis là, dans l'idéal, d'un pincement du stylo, du stylet, on envoie son presse-papier dans son application de notes favorite. Donc voilà, je lui ai trouvé une nouvelle utilité à ce stylet que le poids de l'habitude m'avait amené à le regarder plus tellement avec les yeux de chimène ces derniers temps. Mais maintenant, avec cette nouveauté, moi aussi, je cède aux sirènes des nouveautés, je le regarde différemment. Et ces possibilités d'annotation, elles sont riches, très très riches. Mais là aussi, on va en parler.
En tout cas, ton stylet ressemble de plus en plus à une baguette magique cette fois.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le Harry Potter de la lecture avec ça.
Bravo. Et François, tu as évoqué plusieurs fois l'application Kindle et la liseuse Kindle en tant que telle. Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Est-ce que c'est un vieux modèle et pourquoi tu permutes entre la liseuse et l'application? Qu'est-ce qui te semble plus judicieux d'un côté ou de l'autre?
Oui, alors je crois être le possesseur d'une Kindle Oasis, il me semble, qui me convient pour l'instant très bien. La différence, alors je trouve que l'annotation, le surlignement est plus efficace, un poil plus efficace sur l'écran de smartphone et de tablette et d'iPad, je veux dire, sur l'application, un peu plus fin pour bien s'arrêter, hein, je veux dire, pour bien sélectionner le début, la fin du surlignage, ou, je sais jamais si on dit surlignage ou surlignement, enfin, de ce qu'on surligne en tout cas. Est-ce que je voyais
Est-ce que la
d'autres.
couleur a une importance dans
Ah
cette histoire?
oui, j'ai entendu ce que tu as dit sur la couleur. Non, moi ça me dérange moins. Ça me dérange moins. Par contre, oui, alors, il y a quelque chose qui est absolument remarquable dans la Kindle physique, c'est de pouvoir lire au soleil, pouvoir lire en pleine nature. Ça c'est indépassable, ouais. Très important.
Ce qui est bien, c'est la synchronisation entre les deux, parce que si jamais
et
tu
entre les
n'as
deux,
ton
bien sûr.
téléphone avec toi.
Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Et tu viens de dire à l'instant que cette fonction était remarquable. Et est-ce que tu as déjà utilisé l'appareil que j'ai
Oh, quelle
présentement en face de
transition!
moi, exactement, pour annoter et préparer cette émission? Est-ce que tu as aussi essayé cette liseuse tablette européenne au passage?
En tout cas, norvégienne.
Ma définition de l'Europe est moins
Et là,
politique que. Oui.
c'est un État membre observateur, donc
Voilà.
on y contribue. Et il contribue au budget de l'Europe. Ouais. Écoute, ça fait des années que je tourne autour du remarquable. Ça fait des années que je vais jusqu'à, tu sais, remplir le panier sur le site web.
D'accord.
Je l'ai fait vraiment plusieurs fois, sans cliquer. C'est grave.
Bon,
Et
j'ai
alors,
fait
évidemment, entre le
pareil, mais
dernier
j'ai
épisode.
fini par cliquer sur acheter.
Voilà, votre dernier épisode m'a refait faire le geste. Ah, maintenant, il est plus cher en plus. Le pro, là.
Oui, le pro, parce que t'as de l'encre
Voilà.
couleur.
Voilà. Donc, non, c'est un appareil qui m'attire vraiment beaucoup. Mais je dois arbitrer entre à la fois un peu le coût et puis c'est quand même encore un appareil numérique en plus que je. Voilà. Tu m'as compliqué, j'avais atteint une sorte de status quo, là tu m'as relancé là. Je ne te remercie pas.
C'est
Alors,
compliqué, hein, de faire ses choix, en fait. Parce que pour en revenir au titre, donc itinéraire d'un lecteur gâté, je disais, j'espère que tu m'en veux pas, hein, d'ailleurs, Ghislain, que tu étais un lecteur pourri gâté.
Mais non,
nous sommes
je t'en
tous
prie.
Pourri gâtés.
Nous sommes tous les trois des privilégiés à bien des égards, hein, il faut pas se mentir. Hein.
Ouais,
rien
donc,
que par nos
discussions
aujourd'hui sur tous ces objets de lecture, un bon nombre de nos concitoyens n'ont même pas le luxe de pouvoir se poser cette question de la multitude des supports ou du type de support, etc. Donc à cet égard, nous sommes des privilégiés.
Mais tu vois, je me rends compte aussi maintenant en parlant, ça m'amène à repenser à plein de choses, à mon passé. Je reviens à la Madeleine, mais je dépensais aussi beaucoup d'argent quand ma lecture était monogame, c'est-à-dire que c'était que sur papier. En fait, j'ai acheté beaucoup de ce qu'on appellerait des beaux livres et des éditions originales. J'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode ou le deuxième épisode peut-être de la saison 1. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais aperçu que ces livres-là, je ne les lisais pas pour la plupart du temps. Tu vois, les éditions originales que j'avais payées, bon, à l'époque, je pense que c'était une misère par rapport à ce que ça doit être aujourd'hui, puisque tout augmente, même les origines. Mais donc, en fait, la lecture est une pratique coûteuse, de quoi qu'il en soit. Ça ne doit pas s'arranger, mais enfin, c'est coûteux.
Surtout pour des gens comme Guilin qui achètent en double.
Oui.
En plus.
Et,
mais, t'en prêter.
Voilà. Ceci dit, François, pour te redonner la parole sur la question du coût, puisque tu parlais tout à l'heure de ta lecture du Monde, de Libé et la presse, malheureusement, coûte cher, et si tu lis aussi numériquement des articles du Monde, du New York Times, etc., ça a aussi un coût. Et qu'est-ce que tu fais de tout cela et comment tu préserves tous ces contenus qui, effectivement, sont coûteux mais sont aussi riches pour notre esprit? Comment tu gères tout ça?
Et notre démocratie, pardon.
Oui, on est d'accord. Mais
qu'est-ce que tu entends, Guilin, par préserve?
Ben, c'est-à-dire que les journaux que tu as sur ta table de ce matin, est-ce que tu cherches à les préserver ou est-ce qu'ils vont à la poubelle? Est-ce qu'ils vont dans un composteur? Et qu'est-ce que tu fais de leur pendant numérique? Puisque tu disais tout à l'heure que tu annotais énormément, que tu lisais beaucoup d'articles, ben, comment tu gardes mémoire de toutes ces ressources, que ce soit de la presse ou bien évidemment des monographies ou des articles de recherche?
Oui. Alors, pour la presse que je lis, il va sans dire que je l'achète papier, mais je suis aussi abonné à la version numérique.
Donc, hein, si vous voulez bien, je pense que nous sommes à égalité.
Voilà. Donc, je peux retrouver les contenus, donc je vais le scanner avec mon téléphone.
Donc, tu peux éplucher les patates après.
Mais voilà. Mais
après le petit-déj.
Je vais retrouver la version numérique assez souvent, oui. Mais ta question était sur le plus généralement sur la façon dont je consommais les traces de toutes mes
exactement, lectures. Exactement, oui. Parce qu'effectivement, là, on voit que tu as quand même pas mal de supports papier. Tu as des supports qui sont très variés sur des machines différentes. Comment tu fais pour conserver tout cela?
Alors, c'est une quête de tout le temps et de tous les instants. C'est une vieille affaire. Quand j'ai commencé avec le Macintosh SE, je sais que, et même des choses moins anciennes, il y a des documents Word que je n'arrive plus à ouvrir, hein, donc des prises de notes que j'ai perdues. Et j'étais très intéressé d'écouter ce que tu disais sur ton utilisation de Google Drive pour la pérennité en fait des formats. Alors, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai eu un certain nombre d'années, j'ai utilisé beaucoup de systèmes de mind map ou de schématisation, de cartes heuristiques, comme on dit, enfin, notamment avec MindMeister, un outil web, ou d'autres. Puis j'ai basculé ensuite avec des applications, mais de façon assez intense, hein, c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées, plutôt en mode liste. Il y avait des outils comme Dynalist à l'époque, ou Workflowy, que j'utilise toujours celui-ci encore un petit peu. Là, j'ai beaucoup utilisé, mais dans les deux cas, c'est des outils qui ont des grandes vertus, parce qu'on peut, essentiellement parce qu'on peut faire varier la complexité de l'affichage d'informations. Donc, on peut faire des zooms avant, des zooms arrière, on peut déplier des branches, et donc là, il y a une navigation et des jeux d'affichage qui sont très puissants, je trouve, pour mais justement pour la concentration aussi sur certains contenus, plus les fonctions de recherche très puissantes à travers le campus de notes. Mais dans les deux cas, j'ai été un peu échaudé et c'était un problème du fait de la quand même de complications de l'export, la pérennité. Et je suis devenu assez obsessif là-dessus, le fait de quand même rester propriétaire de mes notes et de pouvoir les exporter, soit parce que j'en ai le désir, soit parce que l'application que j'utilise ne convient plus ou cesse ou change son programme de tarif. Donc maintenant, alors je vais en venir à l'outil que j'utilise aujourd'hui beaucoup, mais qui a la chance, la double vertu de ne pas être trop coûteux, et mais qui surtout me fait travailler des notes qui sont dans un format hyper pérenne, puisque j'utilise maintenant énormément une application qui s'appelle Obsidian, qui est en fait une interface qui permet de gérer un dossier dans lequel il y a des fichiers en mode texte. Et c'est en format Markdown, pour être plus précis, donc c'est du point MD. Mais c'est du texte, c'est du pur texte. Et donc, le jour où Obsidian, cette application en question, n'est plus disponible, convenable, etc., je ne perds quasiment rien. Enfin, je pense que je perds peut-être quelques hyperliens, possiblement, mais enfin, l'essentiel de ma base de connaissances, sera là. Donc, je considère avec émotion derrière moi les classeurs papier et les chemises où, dans lesquelles j'ai des années de prise de notes papier de cours de philosophie que je ne trierai jamais plus, hein. Enfin, je les conserve, ils font partie des murs, mais ça fait partie de mon univers, mais je les manipule plus. En fait, c'est vrai que les notes papier qui ne sont pas numérisées, je les manipule plus. Donc il faut que ce soit numérisé. Donc j'ai deux puits de connaissances ou deux archivages. Mais archivage, c'est trop passif le terme, parce que ce sont des puits actifs qui ont des potentialités de recherche, etc. Donc c'est mon dossier de fichiers texte que j'utilise avec l'interface Obsidian, d'une part, et d'autre part, le Google Drive dans lequel j'ai tous mes PDF synchronisés avec l'iPad que je lis exactement comme tu le fais, mais j'ai appris des choses intéressantes dans ton usage dans la dernière émission. Plus, bah oui, dans mes notes de travail quand j'étais prof, mais là aussi c'est des Word que j'ouvre plus beaucoup. Donc voilà, donc Obsidian est devenu en tout cas l'outil de premier choix aujourd'hui, et je pourrais en parler un peu plus hein, si vous avez
En
des
tout cas,
questions.
François, tu es dans la team de Yann sur ce sujet. Je vous avoue que je suis totalement à la rue à vous écouter avec le Markdown. Je sais ce que c'est, hein, je sais quel goût ça a, mais personnellement, je ne l'ai pas encore intégré dans la recette quotidienne. Mais par contre, François, je partage totalement ce souci d'archivage, d'archéologie documentaire, et j'aime aussi me dire que toutes ces ressources des 15, 20 dernières années, ce n'est pas davantage, autant faire en sorte que ce ne soit pas des momies, qu'on puisse véritablement y
Tout à fait.
accéder. Alors que les momies, oui, elles sont là, mais en fait, elles sont faites pour être totalement inaccessibles. Alors que nous avons à cœur que ce savoir, même si il a été dépassé, il est toujours très intéressant de pouvoir se replonger, comme on le ferait dans un Larousse de 1973, de savoir comment on définissait tel ou tel lieu ou tel mot, et de pouvoir le ramener, de pouvoir le revigorer par rapport à une situation présente. Puisqu'on vient de regarder dans le rétroviseur à l'instant, François, comment maintenant tu te projettes, toi, dans les 10 prochaines années, et en particulier sur le livre numérique ou sur le livre papier?
Alors, dans les 10 prochaines années, donc je me projette avec des montures de lunettes un peu plus puissantes, d'une part.
Ah, tu es dans la team Yann aussi alors, donc c'est
Oui,
ça.
on est tous dans la même team, la team Obsidian et Lunettes, oui, effectivement. Oui,
Bon, c'est
parce qu'il
compliqué.
faut les lire ces notes sur Obsidian après, tu vois,
Il faut
c'est
les
bien beau de
lire,
les avoir. Hein.
ouais. Il faut les lire. Alors, bon, c'est compliqué parce qu'on a l'acteur, on a l'IA générative là, qui est arrivée dans le paysage et dont il est difficile un peu d'anticiper tout ce qui va se passer. J'ai retrouvé en réfléchissant à la question une citation d'un auteur que Yann aimait sans doute Guilin aussi, je ne sais pas si tu l'as lu, mais que Yann et moi aimons beaucoup, c'est Clive Thompson.
Bien sûr.
Tu
Alors,
as
en
lu, hein?
fait,
Oui.
aussi, pardon pour
Vas-y.
l'interruption, mais impossible de ne pas le mentionner. Je pense que moi, j'ai entendu parler de Clive Thompson pour la première fois à Londres, et je crois que j'étais en votre compagnie ou
Exactement, et je crois que nous
là.
avons
Ah, mais
encore
c'était
une
ensemble
fois,
alors.
nous avons encore une fois la même personne à l'origine de la
Ah oui.
recommandation littéraire. Et oui,
C'était Mireille?
et oui, tout à
Oui,
fait.
c'était Mireille. Ah, décidément.
Ah bah
Et oui.
écoutez, j'avais oublié que ça venait de là. Mais en tout cas, Alors dans mes notes, j'ai retrouvé quelques lignes de Clive Thompson qu'il avait écrites en 2013 dans son ouvrage Smarter Than You Think, qui n'a jamais été traduit en français. Et je vous traduis à la volée là, ce qu'il écrit, juste pour dire que c'est à quel point c'est très difficile d'anticiper comment le livre numérique, quelle forme il va prendre, parce que le livre papier dans sa forme actuelle, le livre papier lessé davantage même encore que le livre littéraire, ça a pris du temps avant de se stabiliser. Donc il écrit que l'histoire a toujours montre aussi que généralement on améliore et on raffine nos outils pour les rendre meilleurs. Ça, c'est une tendance de l'histoire, hein. Comme on le disait tout à l'heure, Debré qui dit que c'est une logique d'observation, que les supports d'écriture-lecture vont vers le plus compact, le plus léger et le plus efficace. Et donc il dit, Clive Thompson, que les livres, par exemple, dans cette histoire des techniques, n'ont pas toujours été confectionnés, conçus comme ils sont aujourd'hui. Et il dit, en fait, les premiers livres, ils étaient en fait par rapport à nos standards modernes, ils étaient en fait inutilisables, nuls. Pourquoi? Parce que les premiers livres, il n'y avait pas d'aide à la navigation qu'on prend aujourd'hui comme allant de soi, comme des index, des sauts de paragraphes,
Pas
de numéros de page,
d'alinéa, pas de
pas d'alinéa,
titre.
exactement, exactement, et les
Je pense même pas que la reliure existait d'ailleurs de prime abord en fait.
Oui,
En
tout
fait.
ça, c'est construit lentement. Et donc, ça a pris des décades, des décennies, des siècles en fait, hein, pour que le livre soit redessiné, reconçu dans des formes comme un outil. Clive Thompson dit un outil cognitif plus flexible, qui est adapté pour des prises de référence rapides, des consultations rapides, autant que pour la lecture approfondie. Hein, qui soit aussi bon pour la consultation de surface et rapide et utilitaire, autant que pour des lectures approfondies. C'est intéressant parce que souvent à l'écran, on a ce problème-là de qu'est-ce que ça devient la lecture approfondie à l'écran. Et donc il conclut son petit paragraphe en disant que c'est le même chemin que nous allons devoir prendre avec nos outils numériques. C'est pourquoi voilà, c'est compliqué de savoir combien de temps ça va prendre avant d'inventer les dispositifs d'intelligence, en fait, de lecture intelligente et d'aide à la lecture. Voilà. Bon, en tout cas, donc ça, c'est pour répondre, pour dire que ça a pris du temps, ça prendra aussi du temps. C'est tout neuf, hein, le livre numérique à l'échelle de l'histoire des supports de lecture et d'écriture. Plus l'IA arrive, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, je pense. Mais pour rebondir un peu sur des éléments que vous avez soulignés à bon droit, je pense, la dernière fois, pour ce que, en tout cas, moi, j'attends dans un futur proche, c'est des progrès, alors pas tellement des progrès sur le plan technique, oui, des progrès techniques, mais aussi des progrès sur le plan légal et l'encadrement légal du marché pour promouvoir, faciliter, rendre possible parfois même l'interopérabilité du livre numérique acheté, pouvoir le transférer d'une plateforme à une autre. Moi, c'est pourquoi j'achète pas, enfin, ça fait bien longtemps que j'achète pas de livre sur e-book d'Apple, parce qu'il me semble que je ne peux pas les lire sur autre chose que sur un appareil Apple. Donc c'est très important. Et puis voilà, des DRM assouplis, je comprends bien l'importance des DRM pour protéger les droits commerciaux des éditeurs, mais on pourrait peut-être en imaginer des dates de péremption, des choses comme ça, quoi.
Je suis même pas sûr que ces DRM jouent vraiment leur rôle parce que il est quand même assez facile de soit de les exploser, soit de trouver de livres qui en sont dépourvus ou en tout cas pour lesquels on a retiré ces DRM. Donc en fait, souvent ces verrous numériques ne font qu'ennuyer l'honnête lecteur
Certainement.
et n'empêchent pas le piratage. Et sur la question de l'interopérabilité. En fait, je trouve que là aussi, j'aimerais bien que la Commission européenne s'attaque au sujet, par exemple, comme elle l'a fait pour d'autres choses, et qu'elle permette à un lecteur de pouvoir bénéficier du bien acheté de façon un peu
Qu'ils
plus
fassent pour les livres
flexible.
ce qu'ils ont fait avec la fameuse prise USB.
Par exemple,
Par
ouais,
exemple, ouais.
par exemple. Et puis même, en fait, il y a plein de choses aussi que j'aimerais bien voir de ce côté-là. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les livres ou les applications puissent se parler un petit peu plus, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, le dictionnaire intégré sur un livre numérique, c'est super, hein, mais en général, c'est quoi? C'est l'Oxford sur Kindle, tu vois. Mais si on pouvait ajouter ses propres livres, tu vois, tu dirais, bah, moi, je vais lire Victor Hugo, je veux le lire qu'avec le littré, tu vois. Donc, quand je vais cliquer sur un mot, j'emploierais le dictionnaire qui était susceptible de consulter. Ou alors, je veux Antidote, par exemple, de Druide, donc je vais utiliser ce dictionnaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas possible. Puis je pense que ça ne le sera jamais parce que ça doit être un marché de niche. Mais effectivement, je suis d'accord avec cette idée qu'en fait, on n'attend pas plus de fonctions. Là aussi, on en a parlé hein, quand on parlait d'iBooks Author, en fait, qui était une débauche de moyens. Alors, c'était chouette, hein, c'était la fête numérique. Il y avait 15 000 trucs, ça clignotait de partout, ça promettait la révolution dans l'industrie du livre. Bon, ça a fait flop. Et en fait, pour voir du côté de l'avenir, je pencherais plutôt du côté de chez Jeff Bezos, tu vois, en fait. C'est-à-dire dans cette interface qui tend à se faire oublier, cette interface un peu transparente qui rappelle celle de la page que tu as évoquée, François, mm-hmm. tout à l'heure, dans toute sa simplicité d'apparence, mais toute sa complexité derrière. Donc, j'attends avec impatience.
Bien, je vous propose de sonner la cloche pour que on vienne me servir le café, et à vous aussi. Alors, je crois que Yann, les expressos, c'est trop court pour toi, donc on va plutôt partir sur le grand bol de café. François, qu'est-ce que tu prendras, toi ?
Un café que je fais avec une cafetière à pression, à piston, moi.
D'accord. Pour ma part, si ça vous intéresse, moi j'adore le chai latte. Alors donc, je serai dans la team thé, mais un thé un petit peu gourmand. Et donc, c'est parti pour ce nouveau chapitre. Avec ton café. François, comment tu choisis les livres, toi, aujourd'hui, que ce soit en numérique ou en papier ?
Alors, c'est, écoute, beaucoup de références que je trouve citées, de livres, d'ouvrages que je trouve cités, référencés, analysés dans d'autres lectures. Donc, la lecture entraîne la lecture, évidemment. Ça, c'est une source première. Les réseaux, un petit peu, LinkedIn, un petit peu, Twitter, de moins en moins, j'y vais presque plus pour les raisons qui sont les vôtres, et peut-être je vais ne plus y aller du tout. Je parlais tout à l'heure des critiques littéraires, le monde des livres, bien sûr, et puis la joie des trouvailles chez les libraires, j'y vais pas très souvent, mais tout de même. J'ai la chance de pouvoir en fréquenter certains, donc les présentoirs des libraires, et puis surtout pas Amazon. J'achète quelques ouvrages sur Amazon, mais en tout cas, pour trouver des livres, Amazon fait zéro travail.
C'est ce que Yann a évoqué la dernière fois, effectivement.
Oui, c'est même désespérant.
C'est déprimant.
En fait, déprimant, et, où je dirais, et, même, et c'est bien pour les libraires, parce que ça veut dire que je vais pas sur Amazon pour découvrir. Je ne vais sur Amazon que pour acheter une référence dont j'ai déjà. Je possède déjà.
Il n'y a aucune plus-value éditoriale.
Ouais. C'est ça, ils vont vendre. Bah, c'est un vendeur, donc c'est pas un libraire. J'empile beaucoup, comme vous, mais merci Umberto Eco, vous avez rappelé. Oui, aussi.
Et donc tu choisis un peu comme cela, et tu as évoqué les différents médias qui t'aident à choisir. Et ces médias sont les mêmes que ceux qui te permettent de rester informé, ou est-ce que tu as d'autres moyens de te tenir informé que la presse ou les quelques sites que tu évoquais tout à l'heure ?
Pour me tenir informé, il y a la machine à café au bureau. Bien sûr, il y a la machine à café virtuelle qui est un petit peu ce qui était à une époque Twitter, hein. Vous en avez parlé, ce que reste un peu LinkedIn. Bon, la presse, on en a parlé tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de plus davantage numérique, je consomme pas mal de flux RSS, ça veut dire d'agrégation de nouveautés des dernières publications de différents sites à travers une interface permettant d'agréger un agrégateur de flux RSS. J'utilise personnellement Feedly très régulièrement. J'ai beaucoup plus de flux pareillement qui s'empilent que je ne lis pas, et j'ai quelques flux que je vais consulter presque quotidiennement. Le flux que je consulte quotidiennement quasiment, c'est celui de Stephen Downes, cet immense créateur du MOOC, co-créateur du MOOC avec George Siemens, qui est un Canadien, de New Brunswick, je crois, et qui a une solide formation en philosophie, et qui est un très grand, je ne sais pas si vous connaissez, non, Stephen Downes.
Je crois que je le connais à cause, grâce à toi.
Donc un très grand connaisseur de la culture numérique, et qui fait une veille remarquable parce que il quasiment que dans des domaines qui m'intéressent moi, mais c'est jamais, il y a quasiment toujours une petite touche critique, donc il va faire quelques lignes sur ce qu'il a lu, mais c'est pas long, hein, c'est une demi-page, voire moins, mais il y a toujours un point de vue critique, pas agressif critique dans le bon sens du terme, ça donne à réfléchir à chaque fois. Donc c'est voilà, donc j'aime beaucoup, pour moi c'est une école aussi, j'apprends, très stimulant, Stephen Downes. Ça, c'est via le flux RSS essentiellement. Et puis une pratique que je ne fais plus, mais j'adorais à l'époque quand il y avait encore de la presse papier qui traînait dans les wagons de train. J'étais toujours le dernier à descendre et j'allais dans les wagons de première pour récupérer Le Monde, récupérer les journaux anglais. Mais c'est fini, ça, on ne trouve plus, hein. Dans les avions, c'est pareil.
Ouais, c'est vrai.
Et dans les hôtels, un petit peu encore. Quelques bons cafés ont la presse, mais voilà.
Excellent. J'adore ce retour à des pratiques d'étudiant, grosso modo, où tu es un peu fauché et tu as dépensé déjà tout ton argent dans tous les livres pour la fac, donc tu récupères la presse comme tu peux durant tes trajets. Tu as évoqué les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont encore une place dans ta vie quotidienne, en dehors de LinkedIn, que j'imagine est très marquée vie professionnelle?
Oui, donc réseaux sociaux, LinkedIn, vie professionnelle, Twitter essentiellement professionnel. J'ai beaucoup été sur Twitter, hein, mais voilà, j'ai les mêmes problèmes que vous avez évoqués précédemment. Facebook, j'ai eu, quand j'étais enseignant de philosophie, enfin je suis toujours mort, mais il y a un groupe, il y a des groupes d'intérêt professionnel sur Facebook qui sont remarquables, et celui des enseignants de philosophie. Sur Facebook, qui existe depuis longtemps, est remarquable. C'est extrêmement bien, comment dirais-je, géré l'ambiance. Il y a une culture, voilà, il y a une culture de participation hyper constructive. Donc, j'ai continué à y aller avec plaisir pour voir ce que les collègues disent et les qualités des échanges un petit peu. Donc, il peut y avoir vraiment des groupes de discussion remarquables dans ce réseau-là. Mais Facebook, pour moi, c'est surtout pour la vie locale. J'y vais quand il y a des par période, voilà. Mais c'est un peu le barnum, quoi. Et je suis assez faible, je me fais embarquer dans du scroll, un peu. C'est pas bon. Donc je l'ai souvent désinstallé, souvent réinstallé.
Si c'est que du scroll, ça va. Moi, je pensais que tu avais adhéré à des
Non.
groupuscules.
Il y a des réseaux intéressants. J'ai un réseau dans mon quartier qui s'appelle. Alors, je dis un nom de marque. Enfin, je dis un nom de réseau. Je pense qu'il y en a d'autres qui font l'équivalent ailleurs. Ça s'appelle Hopler. HOPLR, je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en Belgique, mais alors c'est du réseau, quand tu t'inscris, tu déclares où tu habites, et alors ça te met en contact avec des gens qui sont dans un périmètre. Tu vois? Donc là
Ah, j'avais quelque
c'est
chose comme ça à Londres.
quelques
Je sais
centaines
plus
de
comment ça
mètres.
s'appelait.
Ouais, ça c'est chouette comme réseau social, extrêmement local, ça j'aime bien
Et c'est
aussi.
pas juste pour pécho.
Et c'est pas juste pour pécho, enfin ça un
Oh,
peu pour pécho si on veut, mais on peut pécho un plombier, on peut pécho si on
voilà,
cherche
c'est
un
ça, ouais.
artisan, par
Ou une
exemple.
explication. Cette route est bloquée parce que.
Oui. Donc hyper local, oui.
Est-ce que tu as essayé non pas les réseaux sociaux de plombier, mais des réseaux sociaux dédiés à la lecture? Yann, lors du premier épisode, évoquait Goodreads, on en a parlé un petit peu. Il a évoqué aussi Bookly, que je ne connaissais pas. Est-ce que toi, tu as expérimenté ces réseaux?
Alors vous en parliez, je pense que je n'ai jamais, je me suis jamais embarqué dedans parce que je lis moins que vous. Je suis un moins grand lecteur, j'aurais eu moins de choses à poster, je crois. Donc c'est la raison peut-être pour laquelle je me suis jamais embarqué là-dedans.
Ah, c'est sûr que si tu fais une mise à jour tous les 2 ans de la lecture de Flaubert, ça fait pas beaucoup
Voilà,
de postes.
voilà, voilà.
Bien, je crois que le café a été siroté avec délectation. Reste le moment délicieux du dessert.
On a déjà commencé à mordre à pleines dents dans ce dessert, hein, en fait.
Effectivement, puisque traditionnellement, lors du dessert, on se pose la question de garder la trace de nos lectures, comme on garderait la trace du petit panneau sur le gâteau d'anniversaire pour se souvenir du nombre d'années. Donc tu as évoqué effectivement déjà des moyens de préserver tes lectures. Est-ce que tu as d'autres moyens plus poussés que tu pourrais conseiller? Alors tu as évoqué Obsidian qui est d'un certain niveau, pour le coup. J'avoue que moi-même, j'ai été un petit peu effrayé par l'outil, donc je ne me suis pas encore collé. Google Drive me paraît plus simple. Et est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être plus évidentes que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent?
Oui, alors je redirai deux, trois mots sur Obsidian parce que je vais expliquer une interaction que je pratique entre Obsidian d'une part et une application assez remarquable dont Yann avait parlé la dernière fois qui s'appelle Readwise. Alors Readwise Reader. Donc c'est une application Readwise qui fait suite à pas mal d'essais. Hein. Il y a eu d'autres tentatives d'applications similaires, mais je pense que celle-là a atteint un niveau de maturité assez remarquable. Donc c'est à la fois une extension de navigateur. Permettant d'archiver des pages web et d'annoter des pages web à travers le navigateur, Mais c'est surtout une application mobile. Alors, comment je l'utilise? Lorsque j'ai une page web m'intéresse, lorsqu'une lecture en ligne m'intéresse, et étant entendu que j'aime pas tellement lire sur mon écran d'ordinateur, j'appuie sur le petit bouton dans ma barre d'extension, le petit bouton Readwise, et ça m'archive la page, et ça m'archive, comme on a dit tout à l'heure, d'une façon nettoyée de tout ce qui n'est pas utile à la lecture. Donc ça enlève les pubs, ça enlève les habillages, ça enlève les couleurs, ça ne garde que des images qui sont associées au texte. Et donc on a une capture très simplifiée, textuelle, voilà, de la page, d'une part. Alors, d'autre part, lorsque je navigue sur une page web que j'ai déjà annotée avec cette application-là, je vais pouvoir la retrouver mes annotations autant de temps que qu'il soit possible après. C'est comme ce que faisaient avant des applications comme ah bah ça y est, j'ai oublié. Enfin bon, il y a d'autres applications qui faisaient ça avant. Mais ça, voilà. Ensuite, ce que je vais faire surtout, c'est lire pardon, les pages que j'ai archivées. Je vais les lire surtout sur mon smartphone en vérité. Donc, ça fait une expérience de lecture sur le smartphone aussi dégagée de toute distraction. L'expérience de surlignage est très bonne et ça vient avec d'autres fonctionnalités que j'explique brièvement. On va avoir la possibilité d'avoir un résumé de la page généré automatiquement par l'IA. Je crois que c'est GPT-4 maintenant. Enfin bon, en tout cas, on peut aller jusque, on peut mettre
Donc tout ce que
son
tu mets de
compte.
côté est résumé d'emblée.
Donc tout ce que je mets de côté est automatiquement résumé. Donc ça me permet éventuellement parfois de lire d'abord le résumé. Avant de lire, de m'engager dans la lecture totale, ça m'annonce toujours le temps de lecture. Ensuite, ce que je surligne, je peux aussi annoter. Alors sur le smartphone, c'est assez agréable parce que j'aime pas du tout le clavier du smartphone. Par contre, la dictée vocale, la reconnaissance vocale est très bonne sur tous les smartphones maintenant, je pense. Et donc, il m'arrive de faire des petites annotations vocales transformées en texte tout de suite. On peut aussi, alors je l'utilise pas tellement en vérité, mais je le mentionne. Il y a toute une petite série de prompts et on peut préparer des instructions aussi ou des prompts pour prompter à partir du contenu qu'on a surligné. Par exemple, ça peut être une traduction, une explication, ça peut être un prompt qui va poser des questions critiques à ce qu'on a surligné, qui va essayer de challenger un petit peu de questionner ce qu'on a surligné pour inviter à la réflexion, etc. Enfin, il y a toute une série de prompts qu'on peut associer. Et puis, alors, la fonction la plus utile pour moi, enfin la plus d'utilisation première, c'est que à la fréquence que l'on souhaite, pour moi c'est tous les jours, avec le nombre que l'on souhaite, enfin il y a un maximum, et moi je crois que c'est une quinzaine de surlignages par jour, me reviennent par courriel. Et on peut paramétrer un petit peu des poids, ça veut dire des choses que j'ai lues très récemment, le jour même ou la veille plutôt, vont me revenir avec davantage de fréquence. Donc ce que j'ai surligné sur ma lecture numérique, le système renvoie des courriels quotidiens avec des surlignages d'il y a peu de jours ou d'il y a beaucoup plus longtemps, ce qui me permet de me remémorer et de me réapproprier ce que j'ai surligné.
D'accord, donc une
Et à
forme de
partir de
pense
là,
bête alors, tu as une forme de pense bête
c'est
automatisée qui arrive dans
de
tes
pense
messageries.
bête ou de memento, oui c'est ça, de pense bête ou de réactivation de la mémoire. Et puis à partir de là, quand je suis sur mon ordinateur, c'est généralement ce mail, je le lis sur mon ordinateur parce que j'ai Obsidian à côté. Et avec le clavier, c'est très simple. La touche D, c'est pour delete, donc je ne veux jamais plus revoir cette citation-là. La touche Enter, c'est pour l'archiver, pour qu'elle me revienne plus tard, si j'estime que ça serait bien que ça me soit rappelé plus tard, parce que je veux pas, j'ai envie d'être à nouveau interpellé par cette citation-là. Et puis celle que je veux, qui m'intéresse, mais que j'ai pas besoin qu'elle me soit rappelée, je les archive moi-même, c'est-à-dire je la copie-colle dans mon système de prise de notes qui est Obsidian.
Tout à fait
Voici.
stupéfiant. Franchement, je suis très admiratif. J'aime beaucoup cette idée de petits rappels à soi automatisés. Et en plus, la messagerie, c'est typiquement ce qu'on va faire dans les premières minutes, arrivé
Voilà.
au travail ou durant le
Et
transport en commun.
Exactement. Et selon le moment, selon ton intérêt du moment, tu peux aussi aller dans les paramètres de l'application, te dire que telle source, je veux que tu me le rappelles beaucoup plus fréquemment, par exemple. parce que je suis en train de travailler sur ça en ce moment, j'ai besoin d'être dans cette atmosphère-là.
Et donc, ta prise de notes, c'est j'annote, je surligne, j'annote en ajoutant des éléments et j'ajoute des éléments bruts de décoffrage dans Obsidian.
Oui. Alors en vérité, je prends pas tellement de. Je surligne beaucoup. Je commande peu dans l'application en vérité, même si la fonction est là. C'est plutôt dans Obsidian que je vais placer la note au meilleur endroit, plus avec une fonctionnalité très importante d'Obsidian, qui n'est pas que dans Obsidian, mais qui est dans Obsidian, c'est la fonction d'hyperlien en mode wiki. Ça veut dire, je prends une note m'intéresse, un bout de texte m'intéresse, je le place au meilleur endroit que j'estime dans Obsidian, mais par ailleurs, j'anticipe des liens en disant, ça, il faudra que je pense ça concerne aussi telle ou telle autre thématique. Donc je fais des liens comme des mots-clés, en fait, hein. Alors, des mots-clés ou des hyperliens. Oui.
Et de ce point de vue, est-ce que tu crois-tu que l'IA viendra t'aider pour accélérer, fluidifier les choses? Et est-ce que dans cette perspective, et Obsidian et tous ces outils qui peuvent être dopés à l'IA feront de toi un meilleur lecteur?
Oui, oui. Alors, oui. Mais en liminaire, je pense qu'il faut aussi être un bon lecteur pour bien utiliser l'IA. Hein. Donc, je pense que l'IA peut nous rendre meilleurs lecteurs, mais que être meilleur lecteur nous apprend à mieux utiliser l'IA. Donc, c'est vraiment une boucle de coopération et nous sommes des partners in cognition, on pourrait dire en anglais. D'abord, pour la raison que tu as toi-même dite dans la dernière émission avec les vertus d'appliquer de l'IA générative sur ta base dans Google Drive, c'est-à-dire tu peux utiliser l'IA générative pour interroger ton corpus de notes. Donc ça, c'est exceptionnellement puissant, intéressant, stimulant, et j'ai fait plusieurs tests très fructueux où l'IA est capable, posant une question basée sur mon corpus de notes, l'IA peut mettre en relation des notes que j'aurais pas spontanément su mettre moi-même en relation.
Ouais, ça renvoie vraiment à ma propre expérience, oui.
C'est ça, et c'est la définition même de l'intelligence, c'est relier les choses, hein, intelligérer, c'est un des sens étymologiques de l'intelligence, c'est rassembler le divers, en fait, hein. Donc il y a des pardon, comment dirais-je,
En singeant l'intelligence humaine, l'IA le fait de ce point de vue très bien, parce qu'elle le fait
voilà, des aspects,
forcément à une vitesse et
oui.
sur une chronologie beaucoup plus vaste que notre propre
En
cerveau ne
fait, oui.
pourrait pas le faire.
Certains diraient qu'il n'y a aucune intelligence, mais en ayant
Oui.
cette capacité de calcul, d'établir des liens ou des
Mmh.
statistiques ou des rapprochements, des patterns, je sais pas
C'est
comment
ça.
on dit en français, effectivement, ça constitue un partenaire précieux.
C'est ça, c'est ça. Bien sûr, on est d'accord, le mot intelligence. Moi, je l'utilise maintenant parce que c'est trop tard. Le mot est là,
Oui, c'est
hein.
vrai.
Mais il vaut mieux parler d'artefacts génératifs, d'algorithmes, etc. Bien sûr. Alors, et je pense aussi que donc cette interrogation du corpus là, on va. J'ai déjà fait un peu l'expérience de comment je peux être assisté dans ma lecture, comment la lecture peut devenir vraiment un dialogue avec le texte, un dialogue assisté avec le texte. Bien sûr, l'IA peut me fournir des explications sur ce que je suis en train de lire, des compléments, résumés, on l'a dit à l'instant. Et c'est un peu anti-Platon, je trouve. Enfin, ça recadre, ça s'oppose assez fortement. Platon, dans le Téétète, vous vous souvenez, c'est un texte vraiment fondateur où il dit. Enfin, c'est un récit, un dialogue. Hein, l'inventeur de l'écriture va présenter son invention au pharaon et le pharaon n'est pas tellement convaincu et même plutôt inquiet parce qu'il dit ton invention d'écriture, c'est la mort de la mémoire d'une part et c'est surtout la mort du texte vivant, enfin du texte que l'on peut, de l'auteur qui peut répondre à tes questions. En fait, un texte ne répond pas à des questions. Bah, avec l'IA, si, maintenant, le texte répond aux questions. On va pouvoir imaginer des textes qui ont de l'IA embarquée, peut-être même une IA qui serait paramétrée par un auteur lui-même, hein, et qui peut fournir des compléments par rapport à ce qui est écrit. Donc je pense qu'on va rentrer dans des textes dialoguants, conversationnels.
J'avoue que cette idée me séduit beaucoup. Je l'imagine énormément d'un point de vue ludique, c'est-à-dire une écriture de fantasy, de jeu de rôle, où l'auteur qui conçoit ses personnages non joueurs va pouvoir faire davantage que leur donner des mots, il va pouvoir effectivement leur donner aussi une voix. Et
Voilà.
de ce point de vue, la lecture ne pourrait être que davantage immersive.
Et pour en
Voilà.
revenir à la toute première section de cette émission, la Madeleine, est-ce que quand vous étiez petit, vous lisiez des livres dont vous êtes le héros?
Oui.
Oui, vous clairement. Faisiez des choix. Et là,
le dé pouvait décider malheureusement d'un sort funeste.
Ouais. Ouais, ouais. Tu jouais avec des dés. Moi, je trichais un petit peu. Je trichais un petit peu. Mais c'est vrai que ce serait génial, tu vois, d'avoir un petit roman comme ça, interactif, avec un petit peu d'IA. Ça doit exister déjà, d'ailleurs. Il y a des donjons et dragons, déjà.
Je crois que sur cette discussion qui nous amène à la fin de l'émission, on peut peut-être se permettre le petit verre d'Armagnac.
Volontiers.
Et donc, pour cette dernière partie, pourrais-tu nous dire, François, ce que tu lis en ce moment ? Alors, j'espère que ce n'est pas Flaubert, ou dans sa deuxième année.
Alors, il y a toujours ces livres que je ne lis pas, qui sont sur ma bibliothèque et sur ma table de chevet. Alors, ce que je lis en ce moment, lentement mais sûrement, je lis le journal de Michael Sebastian, que je ne connaissais pas encore cet été. Michael Sebastian, c'est un auteur, dramaturge, critique littéraire roumain des années 30-40. Et je l'ai lu parce que j'ai écouté à France Culture cet été une émission de radio sur les fascinations extrémistes, politiquement parlant, des auteurs roumains comme Meșe Eliad, Ionesco et Suran. Et dans cette émission, que c'est des auteurs que j'aime beaucoup, et dans cette émission qui était un peu accablante, hein, parce que à part Suran qui a un peu fait une critique, Eliade notamment, mais bref, bon, ça c'est pas le sujet ici, mais en tout cas, il était question de Michael Sebastian, qui était un des meilleurs amis de Meșe Eliad, et de son journal qui était publié après sa mort, et qui raconte ces années-là, donc qui m'intéresse beaucoup. Et donc je le lis, et c'est très très fascinant parce que ça commence donc dans les années 30, donc c'est un juif roumain intellectuel et il est dramaturge. Et puis voilà, l'antisémitisme, on voit au quotidien la montée délirante de l'antisémitisme. Je dis délirante parce que les mesures antisémites qui sont prises au jour le jour sont, comment dirais-je, d'une imagination morbide et presque surréaliste. Hein, voyez. Donc je dis ça, c'est pas une lecture très drôle, mais...
Je pense que je vais reprendre la deuxième paire d'Armagnac, d'ailleurs.
Très intéressant. Donc ça, c'est le journal de Michael Sebastian que je lis en anglais parce que j'ai pas trouvé la version
française.
Je me suis en train de me relire la trilogie de Pagnol, là, Marius, Fanny et César, donc là je suis dans Fanny, et c'est délicieux, à la fois c'est pas du tout, je me dis ça me fait peur, parce qu'il y a c'est super raciste, ou enfin il y a des choses qui sont, je dis, ça passerait pas aujourd'hui, c'est surprenant.
Ah, autre temps, autre mœurs, en effet.
Oui, c'est ça. Non, je dis pas que Pagnol était raciste, mais il y a des remarques qui pourraient être très problématiques aujourd'hui. Mais il y a des remarques, il y a des réparties fabuleuses. Et puis j'ai toujours, grâce à ma Kindle, ma bibliothèque, voilà, j'ai toujours Flaubert. Et donc des fois, quand je suis fatigué, les deux pages que je vais lire, c'est ça, c'est juste deux pages. Donc je lis tout le temps un peu Flaubert, quoi.
Excellent.
Et voilà, ce genre d'auteur à portée de main.
Et alors, Flaubert, mais donc tu as parlé de sa correspondance, mais tu as une préférence, Madame Bovary, l'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet.
Madame Bovary, certainement, et Bouvard et Pécuchet, parce que c'est un sujet de rigolade entre mon père et moi, parce qu'il aime beaucoup, et donc on se sort des tirades ou des situations, typiquement ouais. Bouvard et Pécuchet.
Ouais. Oui, il est extraordinaire ce livre.
Ouais. Oui. Les échecs confiants et ça c'est oui. Des deux personnages.
Oui, à une époque où on tombe facilement dans le technosolutionnisme ou la fascination pour le progrès, la technique, je pense que effectivement.
Ah mais il y a un côté un peu miroir, hein. Ils ont une fascination, ils sont très enthousiasmés, hein, par les ouais. technologies.
Ouais, absolument, oui. On a tous quelque chose de pouvoir.
Exactement.
Malheureusement.
Génial, merci beaucoup pour cette mise en avant de Flaubert. Bon, j'avoue que j'adore Madame Bovary, mais ça c'est peut-être mon petit côté féministe prononcé. Est-ce qu'il y a des livres que tu veux absolument relire, mais à un tel point que tes yeux s'enflamment rien que de croiser la couverture de ces 10 ouvrages ?
C'est compliqué. J'ai dans ma bibliothèque, à quelques mètres à peine de moi, à quelques centimètres de moi, des ouvrages classiques de la philosophie. Que, que donc je n'enseigne plus la philosophie depuis 6 années maintenant. J'avais des lectures de philosophie assez utilitaires au sens, c'était pour préparer les cours. Je me suis toujours senti plus enseignant de philosophie que philosophe, hein, donc spécialiste de l'enseignement de la philosophie, plus que spécialiste de la philosophie. Mais donc j'ai souvent eu des lectures quand même qui étaient utilitaires au sens, voilà, je vais préparer des cours à travers mes lectures. Et donc j'ai retrouvé un plaisir de relire de la philosophie et surtout je brûle de replonger dans certains classiques, mais je le fais pour voir comment les concepts souvent anciens et dans des territoires très différents de ceux qui m'intéressent maintenant peuvent être éclairés, ce que je suis en train de faire, de pratiquer. Tu vois? Un exemple énorme, c'est par exemple le concept de virtuel chez Aristote. Comment en fait... Réfléchissent, comment dirais-je, comment ça peut éclairer notre expérience, notre expérience actuelle du numérique. Donc ça, c'est un exercice très intéressant à faire, je trouve, avec les grands classiques de la philosophie, que j'aime bien relire pour cette raison.
Très bien. Eh bien,
Et puis
nous.
oui, relire, pardon, oui, bien sûr, j'ai marqué ça, relire mes collections de BD. Ça, c'est, je brûle, chaque année, toi, tu relis. Bram Stoker, Dracula et Tolkien, moi je relis
Pif
Gaston Lagaffe.
Gadget. Excellent.
Non, Gaston Lagaffe
J'allais
plutôt,
te
Gaston
demander quelle
Lagaffe.
était ta préférence, donc Gaston Lagaffe.
Gaston Lagaffe et Larsenet,
Très bien.
pour prendre deux auteurs un peu différents, deux générations un peu différentes.
Moi, je propose une émission spéciale Pif Gadget hein, la prochaine fois. C'est-à-dire que il faudrait reparler de tous ces personnages, Rahan, fils des âges
Des
farouches.
âges farouches,
C'était le
ça.
titre. Et donc,
Euh,
je ferai un édito en chantant l'international.
tous ces muscles
Bah
bandés.
oui. Forcément.
Il y
Forcément.
aura un gadget, s'il vous plaît.
Ah
Il y aura un
oui,
gadget,
bien sûr.
absolument.
Avec une imprimante 3D, on devrait pouvoir faire ça. Ça va être le passage à l'échelle. Je ne sais pas combien on a d'auditeurs, mais
C'est
ça
un
va être là le vrai
itinéraire
défi.
d'un enfant gâté augmenté. C'est merveilleux.
Voilà.
Tout en ayant une madeleine. Bah, on pourrait faire une madeleine en imprimée comme ça.
Ceci, et nommé, ceci n'est pas une madeleine.
Ceci n'est pas une... Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. On a le prochain épisode avec le gadget. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Ça a été un vrai plaisir. Je vois qu'on est déjà à 1h39 d'enregistrement. Je pense que on vient de battre le record de la dernière fois. Et peut-être que pour la prochaine fois, on peut battre ce record et passer à 2 heures d'émission.
Luc Besson,
J'espère
tu as
qu'il reste encore
tiens-toi
des
bien
auditeurs.
parce que
c'est ça.
Le Grand Bleu est à 2 doigts de perdre son record.
En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir tous les deux.
Merci
Oui, merci.
beaucoup.
Merci pour l'invitation et la belle conversation.
Merci beaucoup,
Ouais,
François.
merci encore à vous. Et
Merci.
puis, François, je te souhaite une excellente continuation. J'espère que tu auras la nationalité belge bientôt.
Oui, je t'ai au courant.
Merci. Et puis, Ghislain, nous, on se retrouve le mois prochain.
Exactement. Avec, bien
Même
évidemment.
heure.
Tout à
Un
fait.
nouvel
Et
invité.
voilà. Et des questions tout aussi passionnantes,
Des
je
questions,
l'espère.
notre provision de madeleine imprimée en 3D, notre cognac, notre véritable cognac.
Voilà. Je commande
Très
déjà le
bien.
café.
Merci beaucoup. Au mois prochain. Bye bye tout le
Merci.
monde.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.